Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de QG pour une nouvelle soirée de débat et de campagne. Vous le savez en effet, nous sommes repartis en levée de fonds sur la plateforme Ulule depuis 8 jours pour la première fois de notre histoire. Nous sommes ce soir à près de 50% de notre objectif financier. C'est une fantastique performance en une semaine. Mille merci à tous les contributeurs. Si vous continuez à vous mobiliser dès ce soir, nous pourrons très bientôt monter en puissance, étoffer l'équipe avant Noël, créer des événements physiques dans vos villes. Donc soyez là, soutenez-nous dès ce soir. Le lien va s'afficher vers la plateforme Ulule tout au long de la soirée et notre équipe me fera passer vos réactions. Comment retrouver la voix de la France ? C'est le thème que nous avons choisi pour cette émission en direct de la Maison de la Conversation à Paris. Alors que les volte-face du président de la République Emmanuel Macron sur le Proche-Orient rendent les positions de notre pays illisibles, la voix singulière de la France existe-t-elle encore pour retrouver notre indépendance, autant diplomatique qu'économique? Et comment faire? Quelles valeurs portons-nous encore à travers le monde? Pour en parler, ce soir, je suis en compagnie de 3 soutiens de QG au profil politique très distinct. C'est ce qui fait notre force, ce caractère vraiment transpartisan de QG. Laissez-moi vous les présenter et tout d'abord, je justifie l'absence de Sandrine Rousseau qui devait être jusqu'à midi, jusqu'à 13h en tout cas, à nos côtés, qui a un petit souci de santé sans gravité, voilà, nous le signalons, et qui donc a dû annuler tous ses rendez-vous. Mais ce soir, nous sommes en compagnie de Charles-Henri Gallois. Bonjour.
Bonsoir.
Charles-Henri, vous êtes président de Génération Frexit. Vous êtes un ancien cadre de l'UPR. Vous avez fondé avec un certain nombre de jeunes cadres de l'UPR un nouveau parti qui milite pour la sortie de l'Union européenne. Et vous êtes aussi l'auteur des Illusions économique de l'UE. Merci d'être avec nous une fois de plus. Merci. Sur l'antenne de QG. Également avec nous ce soir, Dominique Bertinotti. Bonsoir.
Bonsoir.
Dominique, vous êtes ex-ministre de la Famille sous François Hollande. Vous avez porté la réforme du mariage pour tous. Vous êtes aussi une ancienne proche de François Mitterrand. Vous êtes professeur d'histoire à l'université. Vous êtes une femme de gauche, un esprit indépendant. Vous n'êtes pas affilié à un parti. Ce soir, également avec nous sur l'antenne de QG, une connaissance, François Bouleau.
Bonsoir.
Bonsoir. François, vous êtes avocat, vous êtes une figure des Gilets jaunes. Et je le rappelle, pour nos soutiens les plus anciens, vous étiez présent lors du tout premier tournage de QG, rue Oberkampf. C'était à l'été 2019. Merci pour votre fidélité. Et tout de suite, bien sûr, on passe au débat. Je rappelle, bien sûr, que nous sommes en campagne sur Ulule, que le lien va s'afficher toute la soirée. Nous sommes quasiment à la moitié de notre objectif. C'est vraiment le moment de nous soutenir, de nous porter. Alors, la position d'Emmanuel Macron, notre président de la République, depuis le 7 octobre, n'a cessé d'évoluer. Puisque nous sommes passés d'un soutien inconditionnel à Israël affiché à une exhortation il y a quelques jours sur la BBC à arrêter le massacre des innocents, je cite, dans la bande de Gaza, avant une nouvelle rétractation le lendemain. Il y a dû y avoir quelques coups de téléphone apparemment. Est-ce que quelqu'un a compris sur ce plateau quelle était exactement la position de la France aujourd'hui ? Sur ce conflit. Qui veut se lancer ?
Moi, je vais commencer. Moi, je vais reprendre une expression de votre introduction sur est-ce que la France a encore une voix singulière ? J'ai envie de répondre non. Non. J'aimerais, au-delà du conflit israélo-palestinien, savoir si quelle est la politique étrangère d'Emmanuel Macron ? C'est-à-dire quelle lecture géostratégique il a du monde aujourd'hui, et est-ce que dans cette lecture géostratégique que je ne perçois pas sur toutes les questions internationales, Manifestement, moi j'aurais tendance à dire que nous n'avons plus, la France n'a plus de voix singulière, et que ça c'est quand même quelque chose qui est flagrant aujourd'hui, regrettable, et que pour le coup, que ça soit au sein de l'Union européenne ou que ça soit vis-à-vis de l'extérieur, on apparaît comme étroitement dépendant des États-Unis, de ce que souhaitent les États-Unis, et nous n'avons plus de spécificité de politique étrangère française.
Alors, Charles-Henri Gallois, vous qui êtes président de Génération Frexit, j'imagine que vous partagez le point de vue de Dominique.
Effectivement, mais
une fois de plus à la remorque de l'Union européenne.
De l'Union européenne et même des États-Unis. D'ailleurs, on a vu que depuis le conflit avec la Russie, la Finlande, par exemple, doit entrer dans l'Union européenne. Donc, les derniers pays de l'Union européenne qui n'étaient pas dans l'OTAN entrent dans l'OTAN. Donc, on voit que le périmètre est exactement le même. Et quelque part, la politique, les prises de position de l'Union européenne à travers Josep Borrell, à travers Ursula von der Leyen, c'est exactement en fait la politique que souhaite l'OTAN. Et donc la France, là-dedans, n'a plus réellement de voix au chapitre. Et ce qui est d'ailleurs finalement logique quand on réfléchit à ce qu'est la souveraineté, ce qu'est la diplomatie, parce que la diplomatie, normalement, c'est l'expression même de la souveraineté. La diplomatie, normalement, on n'est pas là à faire de la géopolitique morale chez les uns, chez les autres. On est censé défendre les intérêts nationaux. Donc quand on a une souveraineté, qu'on défend les intérêts nationaux, on a une cohérence, en fait, dans la diplomatie, on a une cohérence dans la géopolitique. Et là, on ne l'a plus. Et au sein même de cela, en fait, on a Emmanuel Macron qui est assez grotesque, qui essaie à chaque fois d'improviser pour faire croire que la France aurait une sorte d'indépendance, mais à chaque fois qui se ramène quelque part, qui le caniche atlantiste revient très rapidement. Et j'ai fait un tweet là-dessus, en fait, j'avais été trop généreux. Parce que j'expliquais que chaque jour, en une semaine, Emmanuel Macron avait une politique différente. On l'a vu après le 7 octobre, déjà le terme de soutien inconditionnel pour la géopolitique, hallucinant. C'est-à-dire qu'on peut avoir un soutien sans réserve, évidemment, vis-à-vis des Israéliens qui ont subi un attentat horrible, mais on ne peut pas avoir, que ce soit vis-à-vis d'Israël ou de n'importe quel pays, un soutien inconditionnel. Enfin, je veux dire, même dans un couple, dans une relation, il n'y a jamais d'inconditionnalité. On ne peut pas soutenir quelqu'un, peu importe ce qu'il fait. Et là, on était dans un soutien inconditionnel. Donc ça, on peut dire que c'était le lundi. Le mardi, il fallait carrément aller dans une coalition internationale pour détruire le Hamas. Le mercredi, il y avait une résolution russe.
Dont on n'a plus entendu parler.
Après,
par
non,
la suite,
c'était fini. Ouais. En fait, il a pris une petite initiative et tout le monde a dû dire que c'était une bêtise et il n'est pas allé plus loin que ça. Après, il y avait une résolution de cesser le feu humanitaire à l'initiative de la Russie. Il ne l'a pas voté. Le lendemain, il y en avait une autre à l'initiative du Brésil. Cette fois-ci, il l'a voté. Après, il nous expliquait qu'il fallait envoyer un porte-hélicoptère pour soigner les blessés à Gaza. Bon, le porte-hélicoptère manque de peau, il a une capacité de 4 personnes. C'est un petit peu léger. Et dans le grand en même temps, la France continue en fait d'exporter des armes à Israël. Donc on est dans un truc complètement schizophrène. Et vous l'avez rappelé, le samedi, si on veut faire un peu le fil de la semaine, il nous expliquait qu'il fallait arrêter les bombardements atroces. Le dimanche, il n'allait pas marcher contre l'antisémitisme tout en nous disant que c'était pas bien. Et finalement, en fait, j'ai été trop généreux en faisant un jour par semaine. J'aurais dû faire des demi-journées parce qu'il s'est rétracté directement de la BBC en disant quand même Israël a le droit de se défendre. Et finalement, non, évidemment que les bombardements ne sont pas volontaires. Donc on est dans un truc complètement dingue, de telle sorte que même le Quai d'Orsay commence à tirer la sonnette d'alarme. Vous avez certainement vu, il y a une note de Marianne qui expliquait que en fait, la position de la France, c'était un zéro pointé d'un point de vue de la notation du Niger à Israël. Et il y a carrément une note commune, ce qui est très rare pour la diplomatie, dans le Figaro, qui expliquait que en fait, Emmanuel Macron nous met en danger d'avoir des changements de position constants, que la France n'est plus crédible. En fait, déjà, quand on n'a plus de souveraineté, on n'est plus crédible. Mais là, en fait, ces changements permanents, et c'est déjà le cas vis-à-vis du conflit russo-ukrainien, font que la voix de la France n'existe vraiment plus. En fait, il n'y a plus un seul diplomate ou chef d'État du monde qui va prendre au sérieux la parole de la France, parce qu'elle change du jour au lendemain. Et ça, c'est absolument dramatique, parce que la France, normalement, aurait un rôle à jouer, que ce soit dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, que ce soit dans le conflit entre Israël et la Palestine. La France, son rôle traditionnel, sa vocation, ça devrait être la voie de la paix, d'essayer d'avoir un certain équilibre. Et malheureusement, cette vocation est complètement manquée avec une France qui a perdu à la fois sa souveraineté, à la fois sa voix singulière dans le monde.
Alors effectivement, je rebondis sur ce que vient de dire Charles-Henri Gallois. On apprenait ce matin dans le Figaro qu'une dizaine de diplomates en poste dans le Maghreb et au Moyen-Orient, je vais citer leurs propos parce qu'ils sont assez forts, hein, avaient rédigé une note disant « regretter le virage pro-israélien pris par Emmanuel Macron dans la guerre entre l'État hébreu et le Hamas ». Qu'est-ce que ça vous inspire, François Blot ?
Alors, je n'avais pas vu cette déclaration, mais c'est plutôt intéressant. Macron, bon, il fait du Macron, c'est-à-dire qu'il fait de la communication. Et en gros, avec Macron, c'est toujours pareil, il dit ce que chaque parti a envie d'entendre, hein, comme ça, il essaie de se faire bien voir par tout le monde. Mais évidemment, il faut toujours regarder ses actes, en réalité. Mais ce qui m'intéresse plus que Macron, c'est que fort heureusement, aujourd'hui, effectivement, son crédit, de façon, à l'échelle internationale, il est quand même largement entamé, mais y compris dans l'opinion publique, en France. Donc la France, c'est pas que Macron. Et ce qu'on observe quand même sur le conflit donc, israélo-palestinien, c'est que les élites, notamment dans les médias, on a un discours qui est assez largement soutien inconditionnel d'Israël. En tout cas, on a beaucoup de personnes qui sont en soutien inconditionnel d'Israël. Alors qu'en fait, dans la population, j'ai l'impression que, là, pour le coup, le bon sens populaire s'applique pleinement. Les gens sont plutôt équilibrés. Et ils sont plutôt à dire, écoutez, oui, ce qui s'est passé le 7 octobre, évidemment, c'est des actes horribles. Et on est en empathie, en compassion pour les innocents israéliens qui ont été tués et leurs proches. Et puis, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas affecté non plus par les bombardements qui tuent là par milliers des enfants, des femmes à Gaza. Et en fait, j'ai l'impression que là, on a un décalage. J'ai rarement vu un décalage aussi fort, aussi évident, me semble-t-il, entre l'opinion majoritaire dans la population et le discours qu'on entend dans le média, qui est assez largement pro-israélien.
Et connu ça avec les Gilets jaunes.
Oui, oui,
mais en fait. Il y avait quand même un soutien dans la population très majoritaire.
Oui, mais qui s'était quand même effrité au fil du temps. Sans revenir sur la dynamique, au départ.
Un traitement de choc.
Effectivement, mais même au départ, les Gilets jaunes étaient quand même soutenus dans les médias. En fait, au tout début. Avant qu'il y ait les manifestations, avant qu'il y ait les violences, etc.
Interprété comme un mouvement de droite.
Voilà, exactement. Tant que c'était un mouvement anti-taxe carbone, avant que le mouvement naisse, il était plutôt populaire. Ensuite, effectivement, le ton a changé, parce que la bourgeoisie a bien compris que ses intérêts étaient directement menacés. Mais pour maintenant répondre plus largement à la question sur la géopolitique, en fait, il y a deux choses. Il y a les symboles, c'est-à-dire il y a ce qu'est la parole de la France. Et là-dessus, notre crédit est quand même très largement entamé parce qu'en fait, la dernière position courageuse qu'on avait prise, c'était en 2003, quand la France s'est opposée à la guerre en Irak, avec évidemment le fameux discours de Villepin à l'ONU. Depuis lors, effectivement, la France s'est très largement mis dans le sillon des Américains, ce qui fait que vis-à-vis des pays extérieurs, notamment des pays du monde arabe, là où la France avait une singularité et pouvait être médiatrice justement dans les conflits géopolitiques, aujourd'hui en fait elle est vue comme ce qu'elle est, un vassal des Américains, et c'est comme ça. Et ça, on ne le doit qu'à la politique de Sarkozy, d'Hollande et d'Emmanuel Macron. Mais ensuite, parce que ça c'est la question de la parole, mais après il faut dire, il y a les ambitions, puis après il faut se donner les moyens de ces ambitions aussi. Mmh. Et le problème c'est que dans le même temps, la France s'est considérablement affaiblie, à la fois militairement, mais évidemment aussi économiquement et en particulier sur le plan industriel. Ouais. Et c'est ce qui fait que, effectivement, aujourd'hui, on a au niveau de l'éthos, je dirais, la France n'a plus le crédit réputationnel qu'elle avait dans les années passées quand elle avait une voie indépendante, qui avait été évidemment initiée par le général de Gaulle. Mais en plus, demain, quelqu'un voudrait reprendre cette ligne-là. Ce serait compliqué parce que, en termes de puissance géopolitique, la France s'est affaiblie considérablement. Et dans le même temps, il y a des pays qui ont, eux, n'ont pas manqué d'émerger. Je pense à l'Inde, au Brésil, à la Chine. Au BRICS. Donc, tout ça fait que la position de la France est devenue beaucoup plus délicate. Mais il faudrait absolument retrouver cette voie indépendante, cette voie médiatrice qui a l'ambition de porter un message universel, mais pas non plus, je veux dire, d'ingérence, mais par l'exemple, essayer de montrer l'exemple. Je pense qu'en plus, nous, peuple français, c'est peut-être un peu mégalo, c'est peut-être un peu prétentieux, mais on a besoin de se dire qu'on envoie un message au monde et essayer de montrer l'exemple. Et je pense que ça pourrait être un message mobilisateur pour essayer de ressouder la nation vers un objectif commun. Et aujourd'hui, je veux dire, c'est l'écologie, c'est la paix dans le monde. Bon, d'accord, ça peut faire monde des bisounours, mais donnons-nous déjà les moyens de le faire à l'échelle de la France pour ensuite pouvoir porter le message au niveau du monde.
Dominique, François Bouleau le rappelait à juste titre, le dernier acte fort posé par la France dans le monde, c'était 2003. C'était sous Jacques Chirac, quand ce vieux pays, comme disait Dominique de Villepin, avait manifesté son refus. Rappelez-nous, sous Mitterrand, ce qu'était la doctrine vis-à-vis du Proche-Orient, vis-à-vis de la Palestine.
Justement, j'ai relu le discours que François Mitterrand a prononcé à la Knesset lors de son voyage de 1982. Où il va en Israël, et je relisais ses propos, et c'est des propos justement qui témoignent d'une volonté de grand équilibre à la fois entre la nécessaire sécurité d'Israël, mais aussi le côté indispensable de la création d'un État palestinien. Et c'est dit avec beaucoup de clarté et de force que c'est la position de la France. C'est dit avec beaucoup de clarté et de force devant les parlementaires israéliens. Et c'est un discours qui a eu une vraie résonance et qui a été porté. Et je me disais, quand je vois les atermoiements du Parti socialiste, mais ils n'avaient qu'à relire, j'ai envie de leur dire, mais relisez vos classiques et relisez le discours de la Knesset. C'est au minimum ce que la France aurait dû tenir comme discours aujourd'hui. Mais ce que je trouve encore plus détestable, c'est que au lieu d'expliquer à l'ensemble de nos concitoyens que la géopolitique a de nouveaux visages, vous évoquiez les BRICS, je ne suis pas sûre que beaucoup de nos concitoyens sont au fait du poids et de l'avenir que représentent les BRICS dans justement cet univers mondialisé, il n'y a plus de parole, quelle qu'elle soit, sur justement la description de notre monde en termes de force politique, de lieu de confrontation, de pouvoir. Et on est face à un Emmanuel Macron, alors que la constitution de la Ve République lui donne un véritable poids en matière de politique étrangère et de défense, qui est dans une absence totale de stratégie, sinon justement d'une satisfaction de ce que les États-Unis veulent, c'est-à-dire une Europe qui n'est plus une Europe qui est capable de peser en tant que telle, et puis effectivement un alignement sur l'OTAN. Moi je regrette beaucoup, je le dis, que Sarkozy ait demandé la réintégration de la France dans le commandement intégré militaire de l'OTAN, car c'était quand même une expression justement de la volonté d'exprimer une singularité qui a été quand même dans une forme de continuité, que ça soit sous De Gaulle, que ça soit sous les présidents successifs, chez Mitterrand et chez Chirac. Et la rupture vient avec Nicolas Sarkozy. Et quand on voit l'état du monde, donc je trouve ça très inquiétant. La deuxième chose que je trouve très inquiétante en matière de relations internationales, c'est qu'on a pris aussi un côté que moi je trouve très détestable chez les Américains, c'est-à-dire que quand on mène une guerre, si vous vous souvenez des guerres en Irak, c'est la lutte du bien contre le mal. Bon. Et cette moralisation de la politique internationale est insupportable parce que ça ne se pose pas comme cela. C'est d'une simplification et qui permet, on le vit aujourd'hui au travers du conflit israélo-palestinien, toutes les dérives. Après, on n'a plus une réflexion stratégique. On a une réflexion de l'émotionnel. C'est bien, c'est pas bien. On jette des anathèmes. C'est de la violence. On insulte. Ça n'a plus rien à voir avec un vrai débat public sur ce que devrait être la politique étrangère de la France.
Bon, c'est vrai qu'on assiste vraiment à un moment très particulier dans l'histoire de France. Est-ce qu'on a l'impression que le conflit israélo-palestinien est utilisé tous azimuts à des fins totalement politiciennes pour éliminer des adversaires, pour faire avancer à marche forcée des agendas politiques qui en fait étaient prévus de longue date, et on atteint un degré d'hystérisation du débat public que personnellement je n'ai pas vu, même au moment de Charlie Hebdo, je n'ai pas souvenir de tant d'anathèmes, de tant de violences verbales, de tant d'excommunications. Comment est-ce que vous expliquez ça à tous ?
Je pense en tout cas que c'est d'un point de vue français, parce qu'effectivement il y a la situation géopolitique sur place dont on a parlé. Moi je pense que la France devrait œuvrer pour la paix, la libération des otages et tout ce qui s'ensuit, mais je trouve ça très dangereux de cliver et d'hystériser ce débat au niveau national, parce qu'il y a une sorte de volonté d'importer ce débat en France. Ce qui est absolument suicidaire quand on sait que la France est la première communauté à la fois juive et musulmane en Europe. Et donc ça me paraît être très malsain en fait, et vraiment jeter l'huile sur le feu, que de vouloir importer ce conflit.
Mais alors qui sont les apprentis sorciers dans cette histoire ? Qui hystérise ce débat ?
Puisqu'on hystérise ce débat, c'est très compliqué à dire. C'est ceux qui veulent importer réellement ce débat, c'est-à-dire ceux qui accusent les Français de confession juive d'être à la botte d'Israël, et donc qui seraient à la fois coupables des bombardements, ceux qui accuseraient les Français de confession musulmane d'être palestiniens et donc responsables des attentats qui ont eu lieu le 7 octobre. Et donc c'est toute cette volonté-là, cette hystérisation qui me paraît très dangereuse. Je veux dire, la France devrait agir à l'international sur ces questions-là, évidemment, mais devrait tout faire, au contraire, pour éviter d'importer ce conflit. Si on va sur ce terrain-là, ça peut être explosif. Et je pense que tout le monde devra avoir la responsabilité d'éviter de jeter de l'huile sur le feu là-dedans. On peut avoir des positions qui sont différentes, même concernant le règlement du conflit, mais je pense qu'il faut éviter d'accuser les uns et les autres en France. Et ça me paraît évidemment essentiel. Et quelque part, on en revient à ce que vous disiez, le côté émotion, hystérisation vient de ça, que le fait que la France n'a plus une voix cohérente, on a encore vu une communication, je crois, hier, de l'Union européenne qui parle au nom de tout le monde sur ce sujet-là. Enfin, c'est complètement dingue. Je rappelle que quand même, s'il y avait eu une défense et une diplomatie européenne à l'époque de la guerre en Irak, la France était ultra minoritaire. C'est-à-dire qu'on serait allé faire la guerre en Irak comme l'immense majorité des pays européens l'ont fait aux côtés des États-Unis. Donc la perte de singularité de la France, elle est dramatique, et je pense qu'il y a une absence de vision plus globale de ce que va être le monde au XXIe siècle. Et la guerre entre l'Ukraine et la Russie, je pense, a accéléré ça, parce que l'Europe, les pays européens se sont coupés de la Russie de telle sorte que maintenant vous avez une Europe et un Occident en général qui ne produit finalement plus grand-chose d'un point de vue de la richesse réelle, que ce soit l'agriculture, l'industrie, et vous avez en parallèle toute l'énergie et toutes les matières premières quasiment qui sont dans les pays des BRICS. Parce que, en plus, vous avez l'Arabie Saoudite et plusieurs pays qui ont rejoint les BRICS. Et donc ça veut dire que, si on réfléchit un petit peu à l'avenir du monde au XXIe siècle et pour la prospérité de la France devrait faire au contraire. Évidemment qu'au niveau des valeurs, on est beaucoup plus proche du camp occidental, mais au bout d'un moment, il faut quand même penser aux intérêts de la France. Et je pense qu'au niveau économique, énergie et l'avenir, la France devrait au contraire être au maximum indépendante et devrait être ce pont entre l'Occident, qui a tendance à se raidir avec les États-Unis, qui sont en passe de perdre leur statut de seule et unique puissance, et les BRICS, qui ont cet atout d'énergie, de production, de matières premières. La France pourrait être au centre de ça et quelque part à la fois œuvrer pour la paix, mais aussi bénéficier des atouts, parce que nos valeurs, effectivement, sont plus occidentales. Mais il ne faut pas négliger, il ne faut pas vouloir imposer et cracher à chaque fois à la face du monde nos valeurs et devrait coopérer avec, avec ces pays-là. Ça ne veut pas dire être vassal ni l'un ni l'autre. Moi, je veux que la France soit non alignée. C'est-à-dire, évidemment, ni vassal des BRICS et ni vassal de l'OTAN.
Alors, François, on parlait à l'instant de l'importation du conflit israélo-palestinien. C'est une expression qu'on emploie depuis les années 2000, hein, qui est un peu passe-partout. Qui est responsable, en tout cas, de cette hystérisation totale à laquelle on assiste les bras ballants? Est-ce que c'est, comme on les accuse depuis les années 2000, les banlieues, les prédicateurs musulmans derrière, etc., est-ce que les médias et le gouvernement n'ont pas une large part de responsabilité dans cette affaire?
Je pense qu'effectivement, la situation franco-française, elle est assez particulière, parce qu'on est dans un moment de très grande instabilité politique. Il faut quand même, à chaque fois, en revenir au fait quand même qu'en 2022, il y a trois blocs politiques qui se dégagent à la présidentielle, qu'on retrouve aux législatives. Et ça, ça crée une situation de tension parce que la classe dominante, la bourgeoisie, a parfaitement compris là que la prochaine fois, ce n'est pas du tout certain que le camp macroniste, on ne sait pas qui sera le représentant, mais passe à nouveau et continue à garder le pouvoir. Ce n'est pas du tout certain. Et on a bien compris qui elle a choisi, s'il faut avoir un plan B. On a bien compris que c'est du côté de l'extrême droite et de Marine Le Pen qu'on va se tourner, parce qu'évidemment, dans les deux camps qui sont les extrêmes, entre guillemets, en tout cas qui sont les alternatives au pouvoir en place, bon, bah, il y en a un qui est tout à fait compatible avec le capitalisme et ce système économique inégalitaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, puis il y en a un autre qui le remet en question. Et donc on voit avec quelle rapidité l'arc républicain s'est reconstitué contre la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Et maintenant, donc, le Front National, c'est enfin, le Rassemblement
des
National.
Gens très respectables.
Mais c'est génial, ils manifestent contre l'antisémitisme. En plus, ce n'est pas du tout, je veux dire, le moyen pour eux d'accuser les musulmans d'être ceux qui propagent l'antisémitisme. Enfin, on voit la récupération, évidemment, qui est faite. On a Éric Zemmour qui peut effectivement développer ses thèses pour nous expliquer. Alors là, franchement, c'est... Enfin, moi, je ne croyais pas qu'il y ait des gens qui puissent croire à ça, tellement ça me paraît stupide. Mais venir nous expliquer qu'en gros, le Hamas, c'est les musulmans, qu'Israël, c'est les juifs, et que du coup, je veux dire, la situation du conflit israélo-palestinien, ce n'est pas une situation particulière dans le cadre d'une colonisation en violation du droit international par Israël et des territoires palestiniens, mais nous expliquer qu'en fait, c'est une guerre de juifs contre musulmans, enfin, entre musulmans et juifs, et que du coup, c'est exactement la même chose qui va se passer en France entre les juifs judéo-chrétiens et les musulmans. Enfin, là, on est dans les délires les plus complets. Mais ce qu'on voit, c'est que lui, il peut développer ses thèses. Ça, ça pose pas trop de problèmes. Il n'y a pas du tout de risque d'embrasement du pays, etc. En revanche, ce qui est vraiment très, très problématique, c'est que Mélenchon et la FI, ils voulaient pas dire que c'était des actes terroristes. Ils étaient vraiment, vraiment trop légers parce que c'était que des crimes de guerre pour eux. Pas du terrorisme. Donc,
c'était
du coup,
quand même très maladroit.
Non mais
en termes de communication, à minima, si on juste.
Ils n'ont pas été à droit au tout début. Effectivement, leur communiqué manquait de.
D'empathie.
Manquait d'empathie. Pour autant, je veux dire, c'est une erreur. Mais c'est quand même une erreur mineure. Enfin, je veux dire, c'est pas... ils l'ont rattrapé derrière. Je veux dire, si on est que sur... ce que je voulais souligner, en fait, c'est la rigueur avec laquelle les médias apprécient les positions de la France insoumise, qui n'est pas toujours parfaite, où il y a des choses à redire. Non, j'en suis le premier d'accord. Mais on laisse beaucoup plus de souplesse et de marge de manœuvre à d'autres camps. Et pour moi, c'est vraiment le signe que, je veux dire, Raphaël Enthoven nous l'avait avoué, hein, avant 2022, enfin au moment de l'élection 2022, au deuxième tour, Mélenchon-Le Pen, il était prêt à voter Le Pen. Et donc fondamentalement, pour moi, ce qui explique la dynamique actuelle et le traitement médiatique, c'est que la bourgeoisie a très bien compris qu'il lui faut son plan B, et que l'alternative, elle l'a choisie, ce sera l'extrême droite, et surtout, surtout pas ce qu'elle appelle l'extrême gauche.
Alors Dominique, je voudrais votre réaction sur cette espèce d'explosion en vol de la NUPES suite aux positions de la France insoumise qui a refusé au début de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. On voit que... Alors est-ce que pour vous, en clair, est-ce qu'un certain nombre de personnes attendaient leur heure pour se faire Mélenchon? Ou est-ce qu'il y a vraiment des oppositions réelles au sein de cette gauche?
Moi, je pense que... comment dire? D'abord, je voudrais revenir sur ce degré d'hystérisation actuel. Parce que ça veut dire qu'on ne peut même plus avoir des débats politiques de qualité. quand on est dans une telle irrationalité, hystérisation, insulte, il n'y a plus de débat public.
Je crois que c'est pas leur objectif.
Et que non, mais je veux dire, ce n'est pas. Alors, si je rebondis sur votre phrase, ce n'est pas leur objectif. Ce n'est pas l'objectif du gouvernement. Ce n'est pas l'objectif des élites. Ce n'est pas les objectifs de la classe politique. Mais je suis désolée, les citoyens. Et ce n'est pas l'objectif des médias mainstream. Je veux dire, la façon dont sont, par exemple, traitées les questions internationales sur les médias mainstream, c'est une catastrophe. Est-ce que vous pouvez me citer des reportages où l'on essaye de décrypter et de démontrer pourquoi telle position, telle autre position, quels sont les enjeux? Pas du tout. C'est factuel, c'est des images sensationnelles, c'est vraiment... et c'est en boucle. Donc, je veux dire, ça veut dire qu'à un moment donné, on est dans un processus, et je pense que c'est pour ça qu'on arrive à ce degré d'hystérisation, où ça fait des années que, un, on développe le sentiment de haine de l'autre. Alors, ça change. Il y a la haine du pauvre, il y a eu la haine des gilets jaunes, il y a eu... comme ça, il y a la haine de l'adversaire politique. On est sur un principe où tout ne devient que haine de l'autre. La haine des immigrés, bon, la haine des musulmans. Donc, c'est à un moment donné, ce climat comme ça, où on stigmatise systématiquement l'autre, qui est forcément différent de soi-même, eh bien, on en voit là l'expression. Et puis, je voudrais dire aussi que dans ce, il y a un deuxième facteur, qui est que aujourd'hui, nous sommes gouvernés par la peur. Alors, la peur de tout. La peur de tout. Donc, on a eu la peur du Covid, on a la peur du déclassement social, c'est un mot. Je pense qu'il y aurait plus tard une étude et une analyse sémantique très intéressante à faire sur l'utilisation des mots haine et peur durant cette période-là. Donc, aujourd'hui, au fond, c'est presque l'aboutissement de tout ce processus qui date de plusieurs années et qui fait qu'on stigmatise l'autre. Alors, on arrive au sein de la vie politique politicienne, parce que c'est vraiment ça, c'est même pas la vie politique, mais la vie politique politicienne, à exactement le même processus. C'est-à-dire, on a besoin d'avoir un ennemi, d'avoir un bouc émissaire. Alors, finalement, là, c'était du pain béni. Je veux dire, je suis catastrophée sur... moi, je suis de gauche, hein, mais je suis catastrophée par la réaction d'un certain nombre de leaders politiques de gauche qui ont complètement oublié que nous sommes dans un moment de situation internationale tellement grave, tellement dur, où c'est pas simplement le conflit israélo-palestinien, on sait bien que ce conflit peut s'étendre et donc avoir d'autres répercussions excessivement importantes.
Mais là, vous pensez à quel leader de gauche, Dominique ?
Je pense à tous ceux qui ont appelé benoîtement à manifester aux côtés du Rassemblement National.
Vous parlez de la marche contre l'antisémitisme du week-end dernier ?
Oui, mais oui. Parce que
Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le plateau qui y est allé, d'ailleurs, à cette marche contre l'antisémitisme à Paris ?
Moi, je n'ai pas pu y aller, mais j'aurais très bien pu y aller, parce que je considère que c'est pas... Il y en a qui voient ça comme une marche de soutien à Israël, c'est une marche de soutien contre l'antisémitisme dont sont victimes nos compatriotes, en fait, français. Quand on regarde les actes...
Mais on aurait pu vraiment élargir à toute forme de lutte contre le racisme.
Exactement. On fait soit une manifestation contre toute forme de racisme, dont l'antisémitisme, mais toute forme racisme. Parce que dans le moment, faire ça... Moi, j'ai écouté Ronny Broman sur la question, et je suis absolument d'accord avec lui. C'est que de la manière dont on a appelé à cette manifestation, et de la manière, en plus, dont certains sont intervenus, hein, même certains organisateurs, en fait, c'était une manifestation... pro-israélienne, dire dans le moment quand ça fait 3 semaines à 1 mois que Israël bombarde Gaza, ça me semble quand même très maladroit et c'était quand même un gros piège tendu oui, pour essayer de disqualifier un camp et c'est exactement ce qui
on peut retourner la chose à ce moment-là et dire que les manifestations pro-palestiniennes juste après l'attaque du Hamas étaient un soutien au Hamas. Enfin, je veux dire, ça me paraît un peu gros.
Pas du tout, ça n'a rien à voir.
Dans le contexte, après un attentat, à ce moment-là, on dit que c'est un soutien. Là, le motif était contre l'antisémitisme.
La grande différence dans la marche, c'est que c'est Gérard Larcher et Yael Bourne-Pivet, c'est-à-dire deux représentants des institutions importantes qui disent nous appelons à la marche contre l'antisémitisme sans même en discuter avec l'ensemble des responsables politiques et de réfléchir. Donc tout ça est bien pensé pour justement essayer de marginaliser, pour des raisons bassement politiciennes, de marginaliser et de démontrer maintenant l'épouvantail, c'est plus Marine Le Pen et l'extrême droite, c'est Jean-Luc Mélenchon et l'extrême gauche. C'est dramatique. Et que... après tout, que la droite veuille faire cela, je pourrais encore l'entendre. Mais que des hommes et des femmes de gauche se prêtent à cela, moi ça me rappelle de très mauvais souvenirs au sein du Parti Socialiste, où on n'existait plus que dans la détestation de l'autre. On n'était plus capable de travailler ensemble, de dire oui, ce que dit un tel est tout à fait pertinent, tout à fait juste et intéressant. Oui, il n'a pas la même position, mais ça mérite qu'on discute avec lui. Alors maintenant, si on veut à gauche créer un champ de ruines, qu'il continue comme ça. Mais je pense
pour prolonger ce que disait Charles-Henri Gallois, quand même, c'est vrai que les Juifs de France sont dans une situation compliquée parce que la peur, elle est réelle, elle existe, on le sait, on en connaît tous. Et en même temps, comment manifester sa solidarité à leur égard, si on ne peut pas...
Surtout que là, je vais rebondir, mais à aucun moment, il était dit dans cet appel, en tout cas, moi, je ne l'ai pas lu comme ça, que la France insoumise n'était pas invitée. En fait, tout le monde était invité. C'est Jean-Luc Mélenchon qui, de lui-même, a décidé de ne pas y aller. Donc après, on l'analyse comme on veut, mais on ne peut pas dire que l'origine de la démarche était celle-là.
Non, mais il faut quand même revenir sur le fond. Quand, à un moment donné, on accepte... moi, je suis désolée... Je ne suis pas oublieuse de la mémoire de ce qu'est le Rassemblement national. Et que c'est contraire, en particulier, moi j'ai une vision universaliste des choses et de la politique, et que le Rassemblement national est tout sauf universaliste. Et qu'il a utilisé cette opération-là pour, un, se blanchir en quelque sorte d'un antisémitisme qui était quand même très récurrent, et ensuite de dire...
Qui est toujours vivace.
Et on a vu quand même des gens qui ont tenu des propos abominables, antisémites, qui se sont permis d'aller manifester dans cette marche. Et quand même, je veux dire, à un moment donné... ça ne servait au Rassemblement national qu'à faire de une autre forme d'antisémitisme, mais cette fois-ci contre les musulmans et contre les arabes. Bon. Et que, je suis désolée, ça n'est pas possible. Alors justement, puisqu'on doit avoir une voix singulière, eh bien la voix singulière, c'était de dire non à l'antisémitisme, mais non aussi à l'amalgame que l'on fait sur terrorisme, islam, religion musulmane, etc. C'est insupportable.
Oui, mais il n'y a pas de...
C'est insupportable.
À l'heure actuelle, il n'y a pas d'acte... il y a plus d'actes même christianophobes que islamophobes, et ceux qui sont les premières victimes en France d'actes, ce sont, on peut le nier, mais c'est la réalité, ce sont nos compatriotes de confession juive. Donc dans ce contexte-là, encore une fois, franco-français, moi je ne veux pas importer le conflit israélo-palestinien en France, mais dans le contexte franco-français, ceux qui sont les premières victimes, c'est quand même nos compatriotes de confession juive. Donc ça, c'est quand même le premier point. Et quant au Rassemblement national, si on veut remonter dans l'histoire...
Je me permets une incise, Charles-Henri, ce point-là ne fait pas consensus, puisque aujourd'hui même, ou hier, l'imam de la Grande Mosquée de Paris, Abdelhi Mamoun, a demandé à une présentatrice sur un plateau de télévision Où étaient ces 1200 actes antisémites pointés par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sachant que les éléments qui ont été le plus médiatisés, les fameuses étoiles de David dans un quartier de Montparnasse, ou une agression antisémite qui pourrait relever de l'automutilisation, etc., finalement se sont avérés être des fakes. Je vous pose la question parce que juste malheureusement ce fait là ne fait pas consensus. Il y a tellement plus de confiance à l'égard de l'opinion, à l'égard d'un Gérald Darmanin qui s'est déconsidéré pendant 6 mois de réforme de retraite, etc., en agitant toutes sortes de mensonges, en fait, tout simplement, de faux black bloc et de faux ceci et de faux cela, que maintenant les gens ne savent plus qui croire.
Sur Gérald Darmanin, moi je suis d'accord, il suffit de se rappeler l'épisode des supporters anglais au Stade de France. Normalement, dans une démocratie normale, ce monsieur aurait dû démissionner depuis longtemps. Mais je veux dire, même si on met de côté de toute façon les 1000 actes récents juste après l'attentat et la réplique israélienne, dans une année normale en France, vous avez 10 fois plus d'actes antisémites que d'actes islamophobes. Ça, c'est quand même une réalité. Non. Et après, si on veut parler après du RN, Marine Le Pen.
Ce réel-là ne fait plus consensus. C'est d'ailleurs un des éléments du problème français.
C'est surtout chacun en plus. En fait, ça dépend comment on fait les statistiques. C'est-à-dire que si on prend les actes d'insultes publiques ou agressions, il y a ça. Après, il y a aussi les données structurelles. Qui sont les plus pauvres? Qui sont ceux qui ont le moins accès aux bonnes écoles? Qui ont les positions sociales les moins favorables? Qui sont les plus victimes de délits de faciès, de discrimination, à l'embauche, de discrimination par la police? Bon, tout ça, au logement, tout ça, c'est quand même plus les musulmans aujourd'hui qui subissent ces actes-là. Alors, c'est des actes qui ne sont pas forcément punis, donc ils ne sont pas forcément dans les statistiques, ceux-là. Mais pourtant, ils existent et ils sont ressentis comme tels par les gens.
On ne parle pas de la même chose que des agressions aux personnes.
C'est pour ça qu'il ne faut pas commencer à rentrer dans les comparaisons, en fait. Qui est le plus victime entre les juifs et les musulmans?
En l'occurrence, sur le conflit,
ça n'aboutira qu'à des impasses.
À l'heure actuelle, si on parle en France, qui sont les personnes les plus en danger? C'est évidemment les personnes de confession juive. Enfin, on peut nier la réalité, c'est le cas actuellement. Et après, sur le reste, moi je voulais revenir quand même sur la partie du RN. Bon, Marine Le Pen, elle n'est pas comptable des propos de son père. Moi, je ne pense pas qu'elle-même soit antisémite. Si on veut rentrer dans l'histoire, on peut aller très loin. L'Union européenne, je rappelle quand même que Robert Schuman était un collabo. Donc est-ce que dans ces cas-là, il faudrait dire que l'Union européenne serait comptable de tout ça? Il faut savoir quand même que le premier commissaire européen, Walter Hahn, était un juriste nazi. Donc en fait, moi, je préfère critiquer, et vous avez le droit de critiquer le Rassemblement national pour ce qu'il propose aujourd'hui, comme moi qui suis anti-Union européenne. Je trouve que c'est un argument qui n'en est pas un peu minable de dire que l'Union européenne, ça serait parce qu'il y avait deux nazis, ce serait un projet nazi. Je critique l'Union européenne pour ce qu'elle est à l'heure actuelle. Et ça me semble bien plus pertinent.
Je critique le Rassemblement national
à l'heure actuelle que de vouloir remonter à l'origine. Moi, ça ne me semble pas quelque chose.
C'est pas remonter à l'origine.
On parle des cadres du Rassemblement national. En tout cas, dans la génération de Marine Le Pen, je ne sais pas exactement, mais dans la génération d'avant, c'est une certitude.
La génération actuelle, j'ai jamais entendu un propos antisémite.
Il ne s'agit pas de personnaliser sur Jean-Marie Le Pen.
Par contre, il n'y a pas de propos islamophobe. Non, parce que, en fait, il ne faut pas rentrer dans cette logique. Ça n'est pas possible. C'est dangereux. Ils sont peut-être plus antisémites. Mais enfin, à longueur de temps, ils viennent nous expliquer que, quand même, ils pointent les musulmans du doigt. Donc, le seul discours qui vaille, dans une période où on a une société qui est traversée par autant de tensions et de déchirures, c'est des discours qui sont rassembleurs. Donc, effectivement, la seule manifestation qu'il aurait dû y avoir, c'est une manifestation contre le racisme, dont l'antisémitisme, si on voulait symboliquement, parce qu'on considère que dans le moment, les juifs sont en danger, parce qu'il y a une histoire. Très bien. Mais au moins, on appelait les deux peuples, justement, les deux cultures, à se rassembler. Et on ne mettait pas en avant
une religion plutôt qu'une autre. Parce qu'en fait, à chaque fois, du coup, c'est faire un deux poids, deux mesures, et c'est donner le sentiment à une communauté qu'elle est délaissée par rapport à une autre. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait monter l'antisémitisme. C'est en faisant une marche pour lutter contre l'antisémitisme qu'on le fait monter, parce que du coup, les musulmans, ils disent, et nous, allez quand, notre marche? Parce que la dernière fois qu'il y a eu une marche contre l'islamophobie, justement, ça a été complètement décrié. On a expliqué que, en fait, personne ne devait y aller parce que c'était une marche pour les islamistes. Donc,
on a même fait des listes dans des groupes d'extrême droite sur des fils Telegram pour agresser physiquement les gens qui ont signé en faveur de cette marche.
Donc moi, je veux bien qu'on dise il ne faut pas de marche contre l'islamophobie parce que du coup, c'est pour une communauté en particulier. Ok, mais alors il faut être cohérent. Alors, il n'y a pas de marche contre l'antisémitisme, il y a une marche contre le racisme.
Il faut quand même remettre les choses en place. Enfin, je veux dire, Mohamed Merah ou Super Kacher, enfin, ça, c'était en France. Il n'y a jamais eu d'équivalent à l'inverse. Parce que, pour moi, on ne peut pas mettre d'équivalent sur une réalité qui n'existe pas en France. Et c'est pour ça, quand je parlais d'ailleurs de ne pas importer le conflit, c'est-à-dire que dans le conflit, il y a une voix de la France qui doit être effectivement de la paix. Mais la réalité de ce qui se passe sur le territoire français, ce n'est pas du tout, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout sur un trait d'égalité sur ce qui se passe. Les attentats étaient à sens unique.
Oui, d'accord, mais les attentats, c'est le fait de musulmans ou c'est le fait de terroristes? Moi, j'ai l'impression que c'est plus terroriste avant.
C'est les terroristes islamiques.
Oui,
mais en fait, sont revendiqués comme tels. Oui, évidemment que tous les musulmans ne sont pas du tout comme ça. Mais
la position sur le terrorisme, je pense qu'il faut en fait avoir un peu de bon sens. Un terroriste, c'est quelqu'un qui a un malade mental, qui va chercher une raison d'aller tuer des gens, qui va se trouver de bons prétextes. Mais il faut arrêter de se concentrer sur ce qu'il a dans la tête, parce que c'est un fou. Un fou, en fait, on ne traite pas rationnellement avec lui. On se moque de savoir ce qu'il a dans la tête. Il s'est donné des raisons de tuer des gens qui sont complètement irrationnelles, qui sont complètement délirantes. Et généralement, il faudrait plus s'intéresser au parcours de vie de ces personnes-là pour expliquer comment ils en viennent effectivement à commettre des actes aussi terribles. Mais je veux dire, on lutte pas contre le terrorisme en s'intéressant à ce que les gens ont dans la tête. On lutte contre le terrorisme en s'intéressant aux raisons qui ont conduit ces individus à devenir des terroristes. Mais c'est des raisons dont ils n'ont même pas, eux, forcément conscience. Je veux dire, il faut s'intéresser au parcours. Généralement, on va retrouver des gens qui ont eu des traumatismes psychologiques dans leur enfance. On va retrouver des gens qui, pour des raisons ou pour une autre, vont effectivement, à un moment donné, être influencés par des groupes extérieurs. Bon, c'est ce qui a produit toute la filière de personnes qui sont allées en Syrie, etc. Et je veux dire, il faut arrêter de s'intéresser à ce que les gens disent. Globalement, les gens, ils pensent beaucoup de conneries. Et donc, les problèmes, on les résout plutôt en s'intéressant à leur déterminisme, en changeant les déterminations, plutôt qu'à leur discours et aux raisons qu'ils avancent pour justifier leurs actions.
Ou alors en protégeant aussi les Français, parce qu'il y en a un certain nombre qui n'avaient rien à faire, par exemple, sur le territoire national. Et ça pose aussi toute la question de contrôle aux frontières et autres, malheureusement, n'est pas en place.
Qu'il faille faire respecter les OQTF.
Alors là, on peut aborder le problème de l'immigration, mais je veux dire, à un moment donné, vous n'en pêcherez pas les flux migratoires. Il faut arrêter aussi sur... Moi, je commence à en avoir assez. Le discours sur l'immigration est nourri de fantasmes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème lié à... on concentre de toute façon les populations immigrées dans les mêmes territoires, qui sont des territoires déjà défavorisés, où on met encore des gens défavorisés. Enfin, je veux dire... Ça ne vous choque pas, par exemple, que la Méditerranée devienne un véritable cimetière à ciel ouvert?
Si, ça me choque, mais c'est plus par le laxisme. C'est-à-dire que si vous dites aux gens que vous pouvez venir...
Vous allez faire quoi? Vous allez dire...
Il faut décourager, évidemment, les passeurs, qui sont en plus des mafieux criminels. Mais si vous ne découragez pas les passeurs, c'est sûr qu'au bout d'un moment, vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont venir, parce qu'ils savent très bien que la porte est ouverte, et donc vous alimentez les drames en Méditerranée.
Notre conversation est très intéressante ce soir, parce que tout se passait bien jusqu'à ce que nous allions au cœur du conflit israélo-palestinien et de la question juif musulman en France. Donc, on a une bonne illustration du problème de ce soir. Or, je vous rappelle, je crois que c'est une de tes analyses la dernière fois que tu es venu chez nous, François. Tu disais, les partis de rupture sont absolument majoritaires maintenant dans le pays. Tous les deux ans maximum, il y a un énorme mouvement social de plus en plus violent. Et pourtant... Eh bien, on nous annonce encore Édouard Philippe, bientôt à l'Élysée, pour prendre la suite d'Emmanuel Macron, à savoir un nouveau néolibéral issu du bloc centre, et de plus en plus autoritaire d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire? Et comment construire sur ce qui nous rassemble? ce qui est notre question ici sur QG.
Moi, j'ai pas mal réfléchi à la question, hein, donc je peux me lancer.
Le plus étonnant, juste avant de faire l'introduction, et je lance la balle, c'est le fait qu'il n'y ait pas de mouvement social d'ampleur à l'heure actuelle, alors qu'on est quand même dans une situation qui est pire qu'au moment des Gilets jaunes. Quand on prend les données de l'inflation...
Est-ce que le mouvement contre les retraites n'était pas un mouvement d'ampleur ?
Pour moi, il était de moins grande ampleur que celui des Gilets jaunes. Même si je suis d'accord, il y a eu un mouvement, et déjà, il était moins... Le mouvement contre les retraites, moi j'étais pour le maintien de la retraite à 62 ans et j'ai participé à plusieurs manifestations, donc évidemment j'étais favorable aux revendications du mouvement, mais ça reste un mouvement très structuré autour des syndicats, et dès que les syndicats sifflent la fin de la récré, c'est fini. Moi je m'attendais plus avec la dimension vraiment du pouvoir d'achat, l'inflation terrible, la paupérisation qu'il y a.
Peut-être la différence entre les deux mouvements, c'est que chez les Gilets jaunes, il y avait une dimension authentiquement insurrectionnelle.
Et transpartisane, et quelque part...
Non, mais ça débordait tous les cadres...
C'était pas du tout institutionnalisé, il n'y avait les cadres habituels, finalement, la manifestation classique des syndicats, on siffle la fin de la récré, et c'est terminé. Là, c'était pas du tout comme ça, et honnêtement, vu l'inflation qu'on a subie, le prix de l'énergie, les restrictions à n'en plus finir, c'est même étonnant qu'il n'y ait pas encore déjà, alors que ce ne serait pas Gilets jaunes, ça serait autre chose, mais qu'il n'y ait pas une résurgence et un grand mouvement populaire qui arrive en France, parce que la situation économique pour les Français est bien pire qu'elle ne l'était en 2018.
Je vous pose la question, François, vous, on s'en souvient, hein, qui venait de Rouen, qui était sur le porte-parole sur le rond-point des vaches. J'imagine que vous avez encore des contacts là-bas avec des gens qui, il y a 5 ans, c'était l'anniversaire, c'est dans quelques jours, qui ont vécu ce mouvement. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui et quelles sont leurs conditions de vie ?
Les conditions de vie, elles sont toujours aussi difficiles. Hein. Globalement, la vie de ces gens-là n'a pas changé, malheureusement. Ce qui a fait, pour revenir sur l'analyse, ce qui a fait la force des Gilets jaunes, l'une des composantes qui a été en fait stratégiquement un choix, alors qui s'est fait spontanément, je veux dire, ça c'était le mystère du mouvement, c'est qu'il y avait des choix un peu qui se faisaient comme ça, collectivement, sans débat, sans vote, mais tout le monde avait la même idée au même moment. Et ce qui s'est fait, c'est qu'effectivement, les revendications se sont concentrées sur une demande d'égalité économique et sociale et sur une demande de démocratie. Et en fait, les questions, effectivement, qui fâchent, questions de religion, la question d'immigration, avaient été mises de côté pour justement ne pas diviser. C'est ce qui avait permis effectivement que le mouvement puisse être transpartisan et qu'il y ait des gens à la fois de droite, à la fois de gauche et un peu d'ailleurs. Bon. Le problème, c'est que j'ai longtemps, moi, résisté et tenu cette ligne-là en refusant d'aller sur les sujets de sécurité, d'immigration, d'islam. Je pense que malheureusement, on arrive dans une période où, en fait, ces sujets-là sont tellement mis en avant par les médias, dans une logique émotionnelle. C'est clair que dans une logique d'hystérisation du débat, en fait, je crois qu'on va malheureusement plus pouvoir faire l'économie de prendre des positions sur ces sujets. On va devoir le faire. Et moi, je propose, je pense avoir une position qui pourrait faire consensus, qui est de dire il ne faut absolument pas pointer du doigt l'islam, parce que la communauté nationale est composée de millions de musulmans et donc il ne faut absolument pas diviser au sein de la communauté nationale. Alors la seule solution, c'est d'arriver à projeter les gens dans une ambition, un projet qui puisse rassembler. Mais ensuite, je reproche à la gauche deux choses. Un, ne jamais parler de sécurité. C'est-à-dire, la gauche devrait parler de sécurité en expliquant aux gens de droite qu'on ne règle pas la sécurité avec des mesures sécuritaires. Et qu'en fait, c'est principalement en réglant les problèmes économiques et sociaux, en redressant l'école et en redressant l'emploi, qu'on va profondément pouvoir régler les problèmes de délinquance, mais un problème de délinquance qui existe et qui pourrit la vie de millions de gens. Donc ne pas en parler, c'est se tirer une balle dans le pied et c'est se couper de plein d'électeurs qui vivent l'insécurité au quotidien. Et de la même manière, sur l'immigration, là, pour le coup, à mon avis, franchement, interrogez les gens dans la rue. Ils vous diront tous la même chose, ou quasiment. Ceux qui ne regardent pas trop la télé, ni BFM, ni CNews, ni je ne sais quelle chaîne. Mais en fait, ils vous diront,
Bah, moi, je ne suis pas contre qu'il y ait des gens qui viennent, mais si ils peuvent avoir un logement et un travail, s'ils peuvent s'intégrer. En fait, les gens, ils sont tous d'accord pour accueillir des gens à la condition qu'on puisse les intégrer. Et donc, tout simplement, le constat doit être fait que depuis quand même plusieurs années, sous le joug d'un pouvoir politique néolibéral inégalitaire, on a accueilli beaucoup trop de gens par rapport à ce qu'on faisait pour les intégrer. Et donc, du coup, on a créé le terreau de délinquance. Enfin, je veux dire, si c'est faire venir des gens pour qu'ils finissent dans des camps ou qu'ils se droguent dans des arrondissements parisiens où on voit pour certains
ce que c'est devenu. À côté de la maison de la conversation.
Par exemple. Bon, franchement, enfin, est-ce que c'est un avenir désirable qu'on offre à ces gens-là? C'est vraiment des solutions qui sont négatives pour absolument tout le monde. Donc, si on accueille des gens, il faut se donner les moyens de les intégrer. Et je pense que ce discours-là, là, pour le coup, c'est un vrai discours de bon sens qui essaye d'être équilibré. Ça mériterait évidemment qu'on rentre beaucoup plus dans le détail, mais bon, si on veut faire un débat sur l'immigration, on peut y passer 3 heures, parce qu'il y a tellement de choses à lever. Mais quand on parle d'immigration, on parle bien des personnes de nationalité étrangère. Et la question, effectivement, c'est quelle est notre capacité d'accueil? Fondamentalement, c'est quand même, il faut se la poser. Dire, moi, demain, je suis capable d'accueillir peut-être 2 ou 3 personnes chez moi. S'il y a 100 personnes d'un coup qui arrivent, c'est pas possible.
C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de capacité, mais on accueille de plus en plus de monde. Donc c'est là où effectivement ça peut pas marcher.
Et on va pas se lancer dans une bataille de chiffres sur l'immigration après Israël-Palestine la semaine dernière, de grâce. Mais j'aimerais vous entendre, Dominique, est-ce que c'est vrai, comme le dit François, que la gauche est démissionnaire sur ces questions-là et qu'elle n'ose même plus y mettre sans un pied parler. Parce qu'en fait, la gauche passe son temps à s'auto-surveiller entre individus, entre partis, à ne plus oser rien dire en définitive et à entendre et à se lancer des anathèmes à la tête.
J'ai envie de dire que ce que vous décrivez sur l'état de la gauche, qui n'est plus capable de penser le monde futur, est une réalité. Il y a un manque de travail de fond dans une grande partie de la gauche qui pense pouvoir continuer à vivre sur une lecture du monde qui n'existe plus. Et que donc tout ce qui sont les grands défis d'aujourd'hui et de demain sont peu abordés, peu travaillés. Il y a un manque de travail de fond qui est flagrant. Donc surtout,
est-ce que c'est un manque de travail ou un manque de courage? Est-ce que c'est un problème de travail?
Oui, je pense que c'est un problème de travail. Parce qu'il faut, oser. Il faut quand même. Il y a une chose dont on ne parle absolument pas ce soir, y compris sur l'hystérisation. C'est la responsabilité. Alors, vous utilisez le terme de classe bourgeoise. Moi, je vais parler des élites. Des élites.
Je suis un peu plus précis.
Oui, mais je pense que le drame, c'est que précisément, nos élites aujourd'hui en France ont été formées exactement dans le même moule. Qui n'est pas énarque, qui n'est pas à l'inspection des finances, qui n'est pas à la Cour des comptes, donc, que ça soit à gauche ou à droite, comment voulez-vous que dans une telle, je ne sais pas comment, identité de formation, vous ayez l'émergence d'une pensée un peu hétérodoxe? Donc, par rapport au devenir du capitalisme, par rapport à un système économique de autre, c'est très compliqué. Ils ont été formés dans le même moule. Hein, on a l'impression que quelquefois ils nous sortent leur fiche de Sciences Po. Bon, donc je trouve ça dramatique et précisément aujourd'hui on voit bien que ces élites sont aussi à bout de souffle. Ces élites-là sont à bout de souffle parce que quand vous n'avez plus la capacité à créer justement une pensée hétérodoxe qui permet la conflictualité au bon sens du terme, la démocratie se nourrit justement de la diversité des opinions et des débats. Il n'y a plus de débat public.
Donc, Dominique, la cause de ça.
J'ai envie de dire, juste pour terminer sur ce point-là.
J'avoue que je pose la question. l'extinction de l'hétérodoxie, l'impossibilité de tenir une autre ligne pour ces élèves issus des grands corps d'État qu'une ligne atlantiste, aujourd'hui pro-israélienne, etc. Elle vient d'où ? Elle vient d'où ? Elle
vient de ce que il faudrait reprendre. C'est très intéressant parce que en fait, lorsqu'a été créée l'ENA, c'était pour former de hauts fonctionnaires. Et on a eu, sous la 4e République, voire même du temps de De Gaulle, des hauts fonctionnaires, moi je pense à, par exemple à Bloch l'aîné, à Georges Boris, qui avaient un sens de l'État. Un sens de l'État au service du politique. Il s'est opéré une confusion qu'après, on ne faisait plus l'ENA pour servir l'État. On faisait l'ENA pour entrer en politique et devenir président de la République. Bon. Et c'est là où, à un moment donné, il n'est pas possible qu'il y ait cette identité de responsabilité de gens qui ont exactement la même formation. Et ce qui est fondamentalement dommage, c'est qu'on a des universitaires qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, d'une très grande qualité. Les entend-on aujourd'hui ? Leur permettons de s'exprimer. Et la classe politique devrait...
Parfois, il faut prendre la parole. Hein.
Oui, mais la classe politique a aussi la responsabilité d'aller chercher ces universitaires. Enfin, moi, j'ai quand même vécu, y compris au Parti Socialiste, des moments où on avait des débats, où on faisait venir... Alors, on n'appelait pas ça des experts. On faisait venir monsieur un tel ou madame un tel qui était universitaire, spécialiste de telle ou telle question, et on débattait de tout cela. Donc, c'est pour répondre à votre question, est-ce que c'est le travail et le manque de courage ? J'ai envie de dire, c'est aussi un manque de travail. C'est un manque de travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une sorte d'affadissement idéologique parce que c'est confortable. C'est confortable que de reproduire ce qu'on a appris à l'ENA, qui est vraiment... C'est la pensée unique économique. Eh bien, aujourd'hui, on a une sorte de pensée politique unique qui est catastrophique. Donc, moi, je suis pour que... je suis d'abord pour qu'on analyse et qu'on parle véritablement d'une crise des élites aujourd'hui dans notre pays. D'une crise des élites. Et pour le coup, quand je vois certains, je l'ai dit, donc je l'assume totalement, certains qui en viennent à justifier et à dire ce que vous dites, que finalement, le Rassemblement national, on peut travailler avec, ils sont tout à fait recommandables et tout cela. Mais j'ai envie de dire, relisez l'étrange défaite de Marc Bloch, qui en 40 explique en quelques pages comment justement on en est arrivé à l'étrange défaite de la France, parce que les élites se sont vautrées véritablement, et que c'est pas juste au moment de la défaite, c'est que c'est un processus où on commence à expliquer que finalement les idées des pays fascistes qui sont de plus en plus nombreux dans les années 30 commencent à infuser dans les esprits, et qu'au bout du compte, l'expérience Blum, donc, et on arrive à plutôt Hitler que Blum. Donc, je veux dire, que l'histoire ne se répète pas, qu'elle ne fait que bégayer. Mais je suis désolée aujourd'hui, et il faut acter que ce qui relève des Occidentaux, nous ne sommes plus l'aile intellectuelle marchante qui incarne un avenir, et que nous avons du mal à prendre conscience que notre rôle doit évoluer, et on n'est plus... vous parliez de la position de la France, on a été tellement souvent donneur de leçons, et on a gardé, alors que les autres maintenant nous disent ça suffit, eh bien nous on a encore garder dans notre esprit qu'on pouvait continuer encore à donner des leçons. Il suffit de lire la presse internationale.
Ça a quand même été un lent travail pour détruire la pour détruire la pensée marxiste, pour détruire la figure même de l'intellectuel dans l'espace public depuis les années 70, qui s'est complètement décomposée. Bon, les nouveaux philosophes, BHL et tout ça ayant été un accélérateur de ce processus, hein, c'est Gilles Deleuze qui le disait lui-même. François, quel regard vous portez-vous sur cette décomposition dont on vit un petit peu le stade terminal, dont l'avènement du macronisme était le stade terminal, puisque c'était une social-démocratie complètement frelatée, mou en apparence et en réalité très dure. Hein,
Moi, je tiens de façon pour acquis que quand on est un inégalitaire sur le plan économique, on est nécessairement voué à être ou devenir un autoritaire. Ça, c'est absolument mécanique parce que comme on mène une politique économique inégalitaire, il y a de plus en plus de mécontentement qui monte dans le pays. Et donc, si vous voulez continuer à appliquer votre politique économique inégalitaire, vous devez réprimer les mouvements de protestation, les manifestations, etc. Pour répondre à la question qui était posée, en fait, c'est pas anodin, du coup, qu'on n'utilise pas le même mot pour désigner l'adversaire. Vous dites élite et moi, je dis classe bourgeoise. Et en fait, du coup, je pense que, comment dire, on n'est pas en contradiction. Mais je pense qu'il y a une partie de la classe bourgeoise que vous n'avez pas désignée en disant élite. Ce que vous avez désigné, c'est les hauts fonctionnaires. Globalement.
Ou ceux qui vont pantoufler, ou ceux qui.
Exactement.
Ont...
Voilà. Et cette critique-là, elle est absolument nécessaire, indispensable. Je veux dire, je vous approuve à 1000%. Je pense que c'est l'un des points aveugles qu'il y a dans la critique aujourd'hui, dans le débat public. La trahison des hauts fonctionnaires envers la nation, qui sont ceux qui, justement, sont censés protéger le peuple des intérêts économiques, notamment, et qui, en réalité, pantouflent et donc se sont vautrés. Sont en collusion avec les intérêts économiques, puisque un énarque va passer dans une banque, puis une assurance, puis il va revenir à Bercy. Et voilà, aujourd'hui, hein, les plans de carrière parmi les hauts fonctionnaires, globalement, c'est ça. Bon, moi, je pense qu'il faudrait absolument interdire le pantouflage. Je veux dire, quand on devient haut fonctionnaire, je parle haut fonctionnaire, hein, pas fonctionnaire, mais haut fonctionnaire, à vie, on travaillera pour l'État et on ne pourra jamais travailler pour le CAC 40 ou une grande entreprise dans le privé.
On va avoir du mal à recruter, là, en ce moment.
Si il n'y a pas de gens motivés pour faire ça, moi, je pense qu'il y aura des gens motivés pour faire ça. Et justement, en posant cette règle-là, on attirera les bons, les altruistes, ceux qui ont un peu des idéaux et qui ont envie un peu de servir leur pays et pas des purs opportunistes carriéristes. Donc ça me paraît absolument fondamental. Après, si le haut fonctionnaire veut se reconvertir pour aller élever des chefs dans l'Arzac et ouvrir un restaurant dans le Cantal, il n'y a pas de problème. Hein. On ne lui interdira pas ça. Bon, mais du coup, il y a un autre adversaire. C'est qu'en fait, ça, c'est la classe bourgeoise. Mais ce n'est pas la plus bourgeoise. La plus bourgeoise, c'est Bernard Arnault, c'est Xavier Niel, c'est Bolloré, c'est ceux qui détiennent, qui sont les propriétaires des plus grandes entreprises capitalistes. Et c'est eux, en fait, qui ont activement participé à instaurer un discours hégémonique dans l'espace public, à formater les écoles de formation des élites. Pour le débat public, évidemment, ils ont racheté les médias. On sait très bien que les médias, ils ne font pas d'argent. Donc pourquoi ils les ont achetés? C'est pour tenir
ce soir, qui est en campagne sur Ulule. Je le signale
évidemment,
au passage.
Quand je dis cette crise, c'est toujours les médias mainstream ou traditionnels, on va dire. Mais évidemment, face à ça, y a des médias indépendants qui sont nés parce qu'il y avait besoin d'un contre-discours, d'une contre-information face à une propagande qui s'est de plus en plus intensifiée, qui est devenue la dictature de l'émotion. Mais pour moi, fondamentalement, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est vraiment... il faut en revenir à la lutte des classes, hein, tout simplement. On nous expliquait à l'époque que la lutte des classes, c'était terminé, c'était fini. Non, la lutte des classes, c'est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Simplement, évidemment, c'est pas l'imaginaire du grand soir avec les fourches, etc. Non, c'est que dans la société est traversée par des rapports de force de classe, et que c'est la classe bourgeoise qui a gagné depuis un bon moment et qui est en train, qui veut plus du tout céder, ne faire aucune concession, ne faire aucun compromis, qui serre les vis au maximum.
On est dans le néolibéralisme.
Oui, et qui a été permis.
Le néolibéralisme n'est pas là pour le bien-être de l'ensemble de la population.
Oui, mais le néolibéralisme, il est le produit des rapports de force et du déséquilibre qui s'est instauré, notamment avec l'effondrement de l'URSS, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de modèle alternatif communiste, avec évidemment tous les défauts et toute l'horreur que ça a été. Mais je veux dire, à partir du moment où il n'y a plus de système alternatif, alors le seul système, c'est le capitalisme. Et là, on peut s'en donner à cœur joie. Donc ça, c'était pour cette explication-là. Je voulais aussi juste suggérer quelque chose sur le pourquoi la gauche se divise et pourquoi, effectivement, les personnes se désignent entre elles. C'est certainement un manque de travail, mais il y a aussi, à mon avis, un problème de méthode. C'est-à-dire qu'il y a une approche qui est dans la morale, la pureté des intentions.
Je veux dire, il faut vraiment être dans la pureté des intentions. Et si on n'est pas le plus gentil, le plus humaniste, le plus moral, le plus éthique, alors on est dans le camp du mal. À un moment donné, en fait, le bien, ça existe en théorie. Dans le réel, c'est jamais tout noir ou tout blanc. C'est toujours un peu gris, et notamment sur le sujet de l'immigration, moi le premier, hein, philosophiquement, je veux dire, ça me pose problème qu'il y ait des frontières et qu'on dise que bah, les êtres humains ne puissent pas librement circuler sur la planète. Philosophiquement, oui, je me dis ça. Mais après, dans le réel, en fait, ça pose tellement de problèmes pratiques que je ne suis pas du tout certain qu'en accueillant tout le monde, bah, en fait, on ne crée pas beaucoup plus de problèmes qu'on en résolve. Et donc, en fait, c'est cette pensée, à mon avis, qui est assez immature, qui est toujours de raisonner dans les intentions et les principes sans jamais avoir une pensée un peu plus pragmatique, de se dire dans le réel, qu'est-ce que ça produit en fait si on adopte telle ou telle solution. Et je pense que ça, c'est un des gros problèmes de la gauche.
Jean-Jacques Rousseau, dans le Contrat social, avait totalement, puisqu'il considérait qu'on ne pouvait pas le mettre en place dans des grands ensembles sociaux. Donc,
c'est ça.
Alors j'imagine que philosophiquement, Charles-Henri a moins de problèmes que nous avec la question des frontières.
Sur la question des frontières, moi je suis au contraire philosophiquement, moi je suis pour une restriction aux personnes, voilà. aux capitaux et aux marchandises. Donc au moins j'ai aucun souci de ce côté-là. Je pense qu'il y a un besoin de contrôle en fait sur tous ces pans-là. J'ai une position qui est intermédiaire par rapport à vous. Donc, moi, je pense qu'il y a une alternative entre le marxisme et le capitalisme complètement débridé qui s'appelait le gaullisme. Et c'est pour ça qu'en fait, j'adhère pas à la fois au concept d'élite et au concept de bourgeois. Le problème, c'est qu'on a une bourgeoisie qui est devenue apatride, mais il peut très bien y avoir une bourgeoisie, parce qu'à l'époque de Gaulle, c'était une bourgeoisie, mais qui défendait les intérêts de l'État. Et c'est pour ça que moi, je n'aime pas le terme d'élite, parce que l'élite, en tout cas dans mon concept, il y a un côté de méritocratie et de défense de l'intérêt général. Mmh. Et c'est pour ça que je considère que ces personnes qu'on appelle encore élites, pour moi, ce ne sont pas des élites. C'est une espèce de médiocratie, c'est une espèce de oligarchie.
Oligarchie,
voilà. Mais en fait, voilà, j'aime pas les appeler élites.
Mais,
en tout cas,
elles occupent les places, elles n'ont pas les compétences.
Voilà, et il y a un vrai problème. Et il y a un autre problème.
Moi, je veux bien qu'on utilise le terme d'oligarchie, si ça vous satisfait.
Oui, ça me paraît plus cohérent que élite, en tout cas.
Il y a le terme d'élite plus neutre, parlons d'oligarchie.
Il y a effectivement aussi un problème qui est plus large, une question de travail. Je pense qu'il y a un abaissement global, et on le voit dans la tenue et la teneur des débats, qui est quand même, quand on regarde des débats de l'époque des années 70-80, quand même une paupérisation à la fois du langage, des idées, qui est absolument dramatique. On peut peut-être le relier, mine de rien, comme je sais que c'est un sujet actuel, sur une sorte d'effondrement de l'éducation nationale, avec évidemment, mais c'est toujours pareil, relativement au privé, si vous regardez aussi, on dit souvent, il y a un côté démagogique de dire que les politiques sont très payés, mais finalement, par rapport à certains secteurs privés, ils ne sont pas très bien payés, et c'est la même chose pour l'éducation nationale. Si vous prenez le salaire d'un professeur, maintenant, qui veut faire professeur des écoles quand on voit les salaires par rapport à d'autres professions. Et donc il y a ce côté effondrement du niveau, et je pense que c'est pour ça qu'on arrive à une impossibilité de penser aussi, une impossibilité
si je peux me permettre,
d'avoir des débats sereins.
Il y a aussi une intentionnalité derrière ça. Quand on voit dans la teneur des débats médiatiques, on n'invite pas des gens pour éclairer la situation, comme vous le disiez tout à l'heure. On invite des gens pour produire un symptôme radical dans les deux camps, mais enfin généralement dans le même, hystériser le débat, cliver la population,
il y a
beaucoup de d'ingénierie sociale derrière ça.
C'est ce qui fait des vues. Alors tout à l'heure, François disait que les médias n'étaient pas rentables. C'est vrai pour la presse écrite, mais la télévision est encore largement rentable. Et malheureusement, et c'est une réalité, les programmes qui fonctionnent ou ce qui fait des vues, c'est ce côté spectacle, on n'est plus du tout sur le fond, donc il y a l'hystérisation, la confrontation, et donc il y a un côté purement mercantiliste en fait là-dessus d'aller ce débat.
Public, mais le
service public est lamentable. Quand on voit, il n'y a plus du tout de débat, ne serait-ce que la souveraineté, de toute façon les souverainistes ne sont plus invités absolument nulle part, mais il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des émissions comme Mots croisés où il y avait des gens comme Emmanuel Todd et Jacques Sapir qui étaient invités. Maintenant on a l'impression que ça fait un siècle.
Il y avait l'émission de Frédéric Taddeï, en direct, on voyait des malpensants.
Mais tout ça n'existe plus. Donc il y a un affaissement général, effectivement, on ne voit plus d'universitaires.
On peut s'interroger pourquoi ça n'existe plus. Ça n'existe plus parce que le système a besoin que les gens ne réfléchissent plus.
Mais quand vous êtes dans un système...
Voilà, pour maintenir un système économique inégalitaire. Voilà.
Parce que, mais là, on va en arriver, c'est là le besoin de nation, le besoin de souveraineté. Pourquoi on est dans un système qui est fondamentalement inégalitaire, c'est qu'on a un système qui a été voulu, à la base c'était l'Union Européenne, les États-Unis, parce que la mondialisation, on vous dit tout le temps, ce serait comme une météorite, un truc exogène qui serait arrivé, qui serait abattu sur nous, on peut rien y faire. Mais en fait si, c'est le fruit de décisions politiques, c'est des décisions de libre-échange, d'ouverture complète des marchés. Et en fait, avant, comment ça se passait pour qu'on ait ces inégalités? Vous aviez un système qui était relativement fermé. Donc c'est vrai que dans ce système-là, si vous étiez chef d'entreprise, d'une grande ou d'une petite entreprise, vous saviez très bien que votre consommation, elle dépendait du salaire que vous donniez aux gens. Et donc, pour alimenter la demande, vous aviez intérêt à augmenter les salaires. Quand vous êtes dans une économie qui est complètement ouverte, avec un libre-échange total, avec des pays qui n'ont pas eu tous les mêmes normes sociales, environnementales, maintenant on va faire entrer l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie dans l'UE, ben, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que le salaire n'est plus du tout vu comme une part de la demande pour vous, elle est vue comme un coût que vous devez comprimer pour être plus compétitif que le voisin d'un autre pays. Et donc tout ce système de libre-échange a amené là-dedans un retard systémique de la demande sur l'offre, et c'est pour ça que les pays occidentaux sont à l'agonie, parce que pour compenser ça et pour essayer d'amortir quelque part la baisse tendancielle du niveau de vie dans un cadre de libre-échange total, eh ben on a fait tourner la planche à billets, on a fait de l'endettement. Mais là, on voit qu'on arrive au bout du système. On n'arrive plus en fait à arrêter cette paupérisation-là. Il y a eu un endettement qui est tel qu'en fait on peut quasiment plus rien faire. On va arriver au bout de ce système. Et effectivement, la tentation de ceux qui tiennent les manettes à l'heure actuelle, du pouvoir en place, ça va être pour maintenir le pouvoir, de raidir et d'être de plus en plus dur, de plus en plus répressif, parce que ça ne peut pas tenir en fait dans un environnement de libre-échange total.
C'est déjà à l'œuvre.
Oui, ça a déjà été à l'œuvre lors des Gilets jaunes et lors d'autres crises. Et donc je pense que fondamentalement c'est lié à ça, et c'est lié à ce système. Il y a un besoin au contraire, on parlait tout à l'heure de frontières, il y a un besoin de retour globalement de frontières, il y a un besoin de protectionnisme si on veut retourner une économie plus égalitaire, parce que dans un cadre de libre-échange total, c'est complètement illusoire. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez de compétitivité ou autre. C'est complètement illusoire de penser que vous allez être compétitif avec des pays où vous avez des salaires de 50 euros par mois. Donc ça, c'est une réalité économique fondamentale. Et il y a un besoin de frontières, en fait, à tous les niveaux. Et la frontière, c'est la souveraineté.
Je voudrais vous poser une question. Est-ce que, par exemple, pour réindustrialiser la France et éviter qu'on vende des entreprises comme Alstom et autres, est-ce que c'est une question de frontières ou est-ce que c'est une question de choix politique d'un gouvernement qui estime qu'il y a des industries qui sont fondamentales pour l'existence même de la France? Est-ce qu'on a besoin de frontières? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un autre type de politique économique qui définisse d'autres priorités?
On a besoin de frontières parce que ces entreprises-là, on pourrait prendre même le secteur automobile, elles ne peuvent pas rester compétitives par rapport aux produits chinois. Donc s'il n'y a pas de frontières, elle a deux solutions à cette entreprise. Soit elle veut assurer sa pérennité, donc elle délocalise exactement comme les autres pour être compétitive, ou alors on remet des frontières, on remet des droits de douane pour protéger ces secteurs-là et qu'il y ait une industrie, une production française. Donc il y a un besoin de frontières si on veut réindustrialiser. En fait, l'industrie, c'est quoi? Il y a évidemment le coût du travail, donc on ne sera jamais compétitif par rapport au coût du travail de la Chine, du Bangladesh et d'autres. Il y a l'énergie, donc ça pose toute la problématique, le besoin de nucléaire, le besoin de sortir du marché complètement absurde de l'électricité de l'UE pour avoir une énergie, et surtout si on veut électrifier, sortir du carbone, électrifier, il faut sortir du marché de l'électricité de l'Union européenne. Et il y a évidemment le besoin de capital, ça on peut financer notamment via la Banque de France et donc le principal problème, l'énergie, la France avec le nucléaire normalement a les atouts pour pouvoir une énergie bon marché, c'est les règles européennes qui nous en empêchent. Le capital, on est censé avoir entre l'épargne des Français et la Banque de France les capacités de le faire. Le seul élément qui bloque, c'est la dimension salariale, et on ne sera jamais compétitif vis-à-vis de pays où les salaires sont payés au lance-pierre. Donc évidemment qu'il y a un besoin de frontières,
oui, mais
sinon on ne réindustrialisera pas.
Alors, vous aviez, je crois, Charles-Henri, posé Non, c'est vous, Dominique, en début de discussion, vous aviez posé cette question. Est-ce que la France a encore les moyens d'avoir une voix singulière? Parce que, bon, nous avons un passé très prestigieux, nous avons encore de l'orgueil, hein, même si nos dirigeants le portent très mal sur la scène internationale. Mais dans la mesure où on en revient à cette question de l'Union européenne, on en revient à la question de l'absence de la question de la souveraineté dans le débat public, est-ce que dans les institutions de l'Union européenne, on a les moyens d'avoir une autre politique? Je vous pose la question.
Je
connais la réponse de Charles-Henri. Donc...
Moi, je pense que non, mais du coup, en fait, vous donnez un argument qui était juste, mais qui, à mon avis, n'invalide pas l'analyse de Charles-Henri.
Je ne cherche pas à être...
Non, mais vous posez une question qui était de dire est-ce que le fait qu'on ait bradé Alstom, Technip et d'autres entreprises comme ça, est-ce que c'est le libre-échange ou est-ce que c'est la trahison des élites?
Il y a une complicité.
Ça, c'est la trahison des élites. Ça, c'est une absence d'ambition nationale. On est absolument d'accord.
Et puis,
Mais en fait, il y a deux choses qui s'ajoutent.
Alors là, pour le coup, d'antipatriotisme total.
Oui. Complètement. Ça se cumule avec une raison structurelle qui a été mise en place, qui est celle du libre-échange, à travers en particulier le marché unique européen. Et effectivement, les arguments que Charles-Henri donnait, là pour le coup, je suis d'accord avec lui, c'est que dans le libre-échange, on peut faire ce qu'on veut. Il y a des filières dans lesquelles on ne pourra jamais produire en France si on s'ouvre à la concurrence internationale, parce que y a du dumping fiscal et social de la part d'autres pays, et que le seul moyen de pouvoir dire telle filière de production, telle branche, nous voulons qu'elle soit nationale, c'est de pouvoir mettre des droits de douane aux frontières pour taxer les pays qui fabriquent à l'étranger pour pouvoir protéger notre secteur intériel et protéger notre marché intérieur.
Les frontières de la France, de l'Europe.
De la France. Mais en fait,
on quitte l'Europe.
Je viens à la question après. Idée frontière.
Il y a deux personnes sur ce plateau qui seraient assez d'accord avec ce scénario.
des droits de douane et aussi des aides d'État. Ouais. Ça, on ne peut pas le faire donc, dans l'Union européenne. Avant de dire ce qu'on va faire, déjà, il faut voir tout ce qu'on ne peut pas faire à cause de l'Union européenne. Et le libre-échange et l'euro a effectivement très largement contribué à dévaster l'appareil industriel français. Et je pense que, du coup, pour relancer des filières industrielles, relocaliser des productions dans un objectif écologique, au passage, mais on est obligé de pouvoir retrouver de la souveraineté, retrouver une capacité à avoir des frontières économiques, c'est-à-dire droit de douane, capacité de donner des aides d'État pendant plusieurs années à certaines filières, donc d'avantager nos entreprises, de les avantager, ce qui est absolument interdit par l'Union européenne, c'est indispensable. Donc après, il y a un débat qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Union européenne? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a ceux qui veulent la changer, puis il y a ceux qui veulent la quitter. Bon. En fait, le débat, à mon avis, est mal posé. Parce que la changer, on n'y arrivera pas. Il faut l'unanimité des pays membres, donc ça ne se produira jamais. La quitter, en fait, c'est pas comme si la France allait toute seule quitter l'Union européenne, puis l'Union européenne, toute seule, elle va continuer à courir avec les autres pays. Non, en fait, si la France dit « Écoutez, vous verrez que ça ne va pas, là, et donc nous, on va en sortir, qu'est-ce qui va se passer ?» On l'a vu pour le Royaume-Uni. Quand le Royaume-Uni fait le Brexit, est-ce que le Royaume-Uni est devenu sans accord avec l'Union européenne et d'un coup il s'est retrouvé complètement isolé, etc. Non, il y a une négociation qui a été très dure, très difficile, pendant je crois au moins 2 ans, mais il a bien fallu conclure des accords. Et c'était que le Royaume-Uni tout seul qui avait toujours eu un pied dedans et un pied dehors. Si c'est la France demain qui dit ça, qui pourra peut-être trouver des alliances avec les pays du Sud, on pense à l'Espagne, à l'Italie, à la Grèce, pour mener une autre politique. En fait, il y aura une autre Europe. Mais pour avoir une autre Union européenne, il faut effectivement accepter de rentrer dans un rapport de force, de faire la politique de HSBC, il faut de menacer de partir, quitte même à partir, actionner article 56, il faut rien s'interdire. Et en plus, c'est important ce discours-là, que quand on arrive à la table des négociations avec les Allemands, parce qu'on a bien compris que c'est avec les Allemands qu'il faudrait avoir la discussion, là, on est un peu crédible, parce qu'on a annoncé ça au peuple, et je pense qu'il y a toute une partie des gens qui seront totalement soutien de ça, et de dire, à un moment donné, ça suffit. Hein. Si c'est continuer la politique de l'Union européenne pour casser les retraites, pour mener les politiques d'austérité, parce qu'il faut soi-disant les politiques d'austérité sur les services publics, parce qu'il faut réduire la dette publique. La dette publique, elle augmente tout le temps, partout, pour tous les pays. S'il faut réduire, casser les protections des travailleurs, le droit du travail et les systèmes de protection sociaux, parce qu'il faut sauvegarder la compétitivité des entreprises, à un moment donné, en fait, on n'a pas fait l'Europe pour avoir moins de droits sociaux, on a fait l'Europe pour en avoir plus. Et comme ça fait quand même globalement 40-50 ans que les gens se font tout le temps détruire leurs droits sociaux, on va peut-être arrêter avec ce projet qui va nulle part, et donc on rompt. Mais en fait, il ne va pas y avoir le vide, il y aura autre chose. Et c'est cette autre chose qu'il faudra construire, mais pour ça, il faut absolument accepter la logique du rapport
de force. En attendant, nous n'avons pas la force politique, je ne dis même pas pour arriver à instaurer ce rapport de force, mais même pour le demander, ce rapport de force. On n'a même plus la force politique pour ça. Bon, j'ai vécu comme vous tous, hein, l'été 2015, avec Syriza, avec Podemos, Pablo Iglesias. Il y avait cet espoir hein, d'une autre Europe. On sait comment ça s'est terminé, hein, par la victoire par chaos de l'Allemagne dans cette affaire. Dominique.
J'écoute avec...
Est-ce qu'il y a, enfin, pour le dire de façon plus politique, il n'y a plus de force à gauche qui pose cette question-là avec une quelconque radicalité?
Alors,
même à l'extrême-gauche, enfin, dans tous les partis, en fait.
Je ne peux pas dire le contraire, parce que c'est exact. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que l'Europe n'a plus de projet. Avant, on pouvait disserter sur qu'est-ce qu'une Europe sociale, qu'est-ce que pourrait être une Europe sociale, doit-on avoir une Europe de la défense. Bon, tout ça est terminé. C'est une catastrophe. De ce point de vue-là, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que, j'ai presque envie de dire, les États-Unis, qui ne voulaient pas, au fond, d'Union européenne, ont obtenu gain de cause. Et de ce point de vue-là, effectivement, il n'y a plus de projet européen en tant que tel. Donc, pour répondre à la question que pose Aude Lancelin, c'est vrai que on n'entend plus beaucoup de voix à gauche qui posent la question ou qui posent les questions que vous posez. Alors vous vous apportez tout de suite des réponses, mais il faudrait déjà qu'on puisse poser les questions.
Oui, mais...
Et elles ne sont plus posées. Oui. Bon. Je veux dire, de ce point de vue-là, au moins, il était un temps où, au Parti socialiste, il y avait quelqu'un comme Arnaud Montebourg qui posait ces questions-là. Et on le mettait pas...
Mais pourquoi est-ce que, prenons l'exemple de Montebourg, pourquoi est-ce que tous les souverainistes sont bannis dans le champ politique français? Parce que même le Rassemblement national n'est pas souverainiste au sens économique.
Il va le devenir de moins en moins souverainiste. Il va prendre la pente Meloni en Italie. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de remise en cause de l'intégration en Europe.
Cette mise au ban de la question européenne dans tout le champ politique.
Pour moi, c'est parce que l'Union européenne, c'est le cheval de Troie du néolibéralisme, que c'est la superstructure qui permet de maintenir l'ordre économique inégalitaire tel qu'il est. Donc voilà, tout se tient. Et du coup, sont bannis de l'espace public tous les gens qui, effectivement, sont critiques de l'Union européenne.
Et ce qui est aussi dramatique, c'est qu'à un moment donné, on a fait voter les peuples.
Exactement, il y a eu le traité de 2005.
Et qu'on s'est assis incroyable sur le vote des peuples.
Exactement.
Donc, de ce point de vue-là, moi qui suis très attachée à la démocratie, je veux dire, pour le coup,
c'est désastreux.
Mais c'est désastreux.
Je voudrais dire que je veux faire preuve d'humilité sur la question de la stratégie sur l'Union européenne. Je ne suis pas capable de prédire, par exemple, les conséquences d'une sortie de l'euro. Je veux dire, ça ne fait pas partie de mes compétences. Oui. Donc, je ne prétends pas, on sort, c'est facile, etc. Ce n'est pas du tout ce que je dis.
Même les économistes les plus radicaux ne promettent pas bons et merveilles.
Exactement.
C'est le moins qu'on puisse
dire. Donc, je veux dire, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais il y a effectivement, à gauche, un énorme manque de travail, enfin, à gauche et dans l'ensemble de la classe politique, un énorme manque de travail, pour le coup, que j'ai pu personnellement constater, où les gens ne connaissent pas les traités européens, ne connaissent pas les règles de fonctionnement de l'euro, ne comprennent pas ce qu'est le libre-échange et ce qu'il implique dans les dynamiques économiques et donc les effets que ça a eu sur l'appareil industriel français. Toutes ces questions-là ne sont juste pas connues de beaucoup de militants et de responsables politiques. Et à mon avis, c'est pour ça que la question n'est pas posée. Et ensuite, de toute façon... Ils sont pas très...
Je pense qu'il y a aussi une frilosité, peut-être parce que quand même la création de l'Europe, alors même si elle s'est créée initialement sur des bases strictement économiques,
L'Europe, c'est la guerre. Donc,
c'est bien pour cela.
Il faut actualiser les logiciels.
C'est bien pour cela que aujourd'hui les questions que vous posez sont tout à fait recevables. Mais à un moment donné, pour expliquer pourquoi la gauche est, c'est que effectivement il y a eu cet idéal d'une Europe de la paix, d'une Europe de la réconciliation, d'une Europe de la fraternité, qui sont quand même de la solidarité, et que moi je me souviens, nous avions quand même des débats qui étaient assez importants à un moment donné dans le Parti socialiste entre la notion d'approfondissement. Doit-on d'abord approfondir la construction de cette Europe ou de l'élargissement? Et que au fond on n'a pas tranché.
Ursula von der Leyen a tranché parce qu'on a fait les six pays des Balkans, je suis désolée, j'étais
dans mon côté camp de gauche, mais qu'aujourd'hui c'est même plus d'actualité ce débat-là, c'est l'élargissement tout craint, voilà, c'est la fuite en avant. Donc, mais je veux dire, pour expliquer que la gauche soit si frileuse en la matière, c'est que, au fond, on n'a pas apporté, en tant que socialiste à un moment donné, il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, de vraies réponses sur la notion d'approfondissement, qu'est-ce que ça voulait dire exactement, ou la notion d'élargissement.
Même pas, parce que l'approfondissement, oui, il n'est pas possible. Et c'est l'Allemagne qui est devenue hégémonique, et c'est l'Allemagne qui dicte ses positions, en gros, à la France.
Et qui s'émancipe en plus de
la France. Et en fait, une différence fondamentale, du coup.
Je vais vous donner un très bon exemple.
Juste ça. C'est que la France les élites françaises essayent de servir la souveraineté européenne. Les Allemands, ils servent la souveraineté allemande. Les élus allemands, eux, ils ont bien compris que leur mandat, c'est de servir l'Allemagne. Et en fait, c'est ça le hiatus fondamental. Pour eux, il n'y a pas de couple franco-allemand.
Mais c'est vrai, c'est que chez nous.
Nous, on est dans les mythes, dans les récits.
Oui, non, mais là, je suis entièrement d'accord. Le couple franco-allemand n'est plus...
Exactement, mais du coup, nous, on essaie de se penser une solidarité européenne, mais qui n'existe pas. Donc, à un moment donné, il faut se réveiller
d'accord.
et prendre...
Il y a un exemple très concret là-dessus. Pour répondre à la question.
Même d'un point de vue, si on prend le point de vue de la gauche, il y a un exemple très concret là-dessus qui est celui de l'arrivée de Lionel Jospin. Il faut se rappeler la gauche unie, 98, etc., 97. L'une des promesses de campagne, c'était la grande révolution, hein, c'était de renégocier les critères de Maastricht. À l'époque, on était en Europe des 15, on n'était pas encore à 27. Il y avait 11 pays sur 15 qui étaient à gauche. Les 4 plus grands pays de l'Union européenne de l'époque étaient à gauche. Même ça, ça n'a pas été possible, parce qu'il faut, l'unanimité. Donc en fait, il n'y a pas besoin de parler d'approfondissement ou élargissement. C'est-à-dire que la modification même de l'Union européenne telle qu'elle est, et comme l'avait rappelé François, comme il faut... l'unanimité, en fait, ça n'arrivera absolument jamais parce que la résultante et les traités actuels de l'Union européenne, il faut savoir que l'Union européenne en tant que telle, ce sont que des intérêts divergents entre justement intérêts nationaux qui sont divergents. Selon certains pays et moments politiques, selon la couleur politique du pays, des fois des sensibilités qui sont différentes. Et donc, c'est-à-dire que les traités actuels sont déjà le fruit de marathons bruxellois, ces 60 ans de négociations sur lesquels personne ne peut et ne veut revenir. Donc la réalité, c'est quoi? C'est soit on accepte l'Union européenne, je ne parlerai même pas d'Europe. L'Europe, c'est un continent, c'est au mieux une civilisation. L'Union européenne, c'est ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire une organisation politique supranationale et que je considère comme nuisible. Donc soit on accepte cette Union européenne qui nous amène droit dans le mur, soit on pose des alternatives. Après, il y a plusieurs façons de le faire. C'est-à-dire que qu'est-ce que propose à l'heure actuelle, disons, si on prend la présidentielle? Les programmes les plus radicaux, il y a d'un côté à gauche celui de la France insoumise et à droite celui du Rassemblement national. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les deux programmes, avec leurs différences, sont complètement inapplicables dans le cadre de l'Union européenne. Donc ça donne quoi en fait? Ça donne que si vous gagnez, ça donne Tsipras en Grèce, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire, ou ça donne Mélanie ou même l'espèce d'alliance qu'il y a eu en Autriche, soi-disant de droite, ça n'avait absolument aussi rien donné. Et que propose la France insoumise? Elle nous dit qu'il faudrait désobéir au traité. Et le RN nous dit à l'heure actuelle qu'il faudrait la supériorité du droit national sur le droit de l'Union européenne. Bon, la désobéissance, il faut savoir que c'est complètement inapplicable dans le cadre de l'UE, parce que même le juge national français, en fait, va appliquer le droit et va condamner l'État français si on fait ça. La supériorité du droit national sur le droit de l'Union européenne, ce qui pose problématique, c'est même pas tant l'application, même si ça serait très très dur, c'est qu'en fait, je pense qu'ils le font parce qu'ils veulent éviter justement de dire qu'on est pour la sortie de l'Union européenne, parce qu'ils regardent les sondages et ils se disent les Français ne sont pas majoritaires pour une sortie de l'UE. Problématique de cette stratégie-là, c'est que l'Union européenne, qu'est-ce que c'est si ce n'est des traités et du droit ? C'est que ça. Donc si vous mettez une supériorité du droit national sur le droit de l'Union européenne ou si vous mettez la désobéissance, en fait, c'est un Frexit de fait. Et donc, en fait, c'est se mettre l'image qu'ils ne veulent pas se donner. Moi, je pense qu'il est bien plus intelligent stratégiquement. On sait, les Français considèrent que l'Union européenne va mal, tous les sondages le montrent. Les Français voudraient récupérer les compétences de l'Union européenne, mais parce qu'on leur dit que ça serait la catastrophe si on sort.
On a su ce que les Français pensaient en 2005.
Exactement. Mais les Français.
Et on a su ce que les gouvernements des Français pensaient de la vie des Français aussi.
Mais les Français pensent.
Les Français pensent majoritairement à l'euro.
Les Français, mais les Français surtout pensent.
70% pour l'euro.
Les Français pensent encore que l'Union européenne peut être réformée. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de dire regardez, j'arrive avec un traité alternatif qui enlève tout, vous mettez déjà les conditions, ça peut être effectivement protéger le modèle social, garder les souverainetés, la question des frontières, je propose ça à nos partenaires. Les partenaires, on va voir ce qu'ils font. Le grand avantage méthodique et stratégique, c'est que si les partenaires refusent, vous pouvez très bien dire, regardez, moi je ne peux pas appliquer le programme pour lequel j'ai été élu, et donc si vous refusez, j'ai proposé de changer l'Union européenne, vous voyez que ce n'est pas possible, je fais dans ces cas-là, j'enclenche un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et là, déjà, c'est pas la même chose un sondage maintenant, c'est encore moins la même chose un sondage après une campagne. On l'avait vu en 2005, les premiers sondages donnaient 69% pour le oui, il y a eu une campagne 55% pour le non. Au Royaume-Uni, avant la campagne du Brexit, 66% pour le Remain, il y a la campagne, le Leave gagne à 52%. Donc vous avez non seulement l'avantage d'une campagne où vous avez des vrais arguments et vous parlez vraiment de la question de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas lors des élections présidentielles.
Il y a une objection à ça, c'est le cas grec, puisque le peuple...
Le référendum n'était pas sur la sortie de l'Union européenne.
Non, il n'était pas sur la sortie de l'Union
européenne.
Il n'était pas sur la sortie de l'Union européenne, mais il donnait beaucoup de force politique à Tsipras. Et en fait, ce sont les élites qui ont tremblé, en fait, qui ont eu peur, à qui une pression énorme a été mise au niveau de l'Union européenne.
C'est pour ça qu'ils auraient dû faire un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et je suis sûr que
qu'est-ce que ça aurait changé, en l'occurrence?
C'est-à-dire qu'ils sortaient légalement. En France, un gouvernement ne peut pas dire, comme ça, du jour au lendemain, je sors. Il faut l'assentiment populaire là-dessus. On parle quand même du plus grand changement géopolitique pour la France au XXIe siècle. Et je pense que ce référendum, dans ce cadre-là, en ayant proposé un traité avant aux partenaires pour montrer, regardez, on essaye de la changer, vous voyez que ça ne marche pas, vous avez la campagne, plus le fait que si vous voulez appliquer le programme pour lequel j'ai été élu, il faut voter pour la sortie, là ça change absolument tout, et je pense que d'un point de vue de la méthode, compte tenu de l'opinion publique française actuelle, compte tenu aussi de la propagande quand même depuis 60 ans de la part de tous les médias en faveur de l'Union européenne.
Pas que les médias, le système
le
scolaire.
Le système en général, le système
le
scolaire
système
aussi.
Scolaire fondamental, aussi en fait.
C'est une façon...
Un objectif qui était en soi... tout à fait défendable. Enfin, l'idée... je pense qu'il ne faut pas refaire l'histoire. On était au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait la volonté de recréer un espace, je dirais, justement, de paix. Alors après, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a eu le plan Marshall, il y a eu...
La dissuasion nucléaire qui a beaucoup aidé à la paix, certainement plus que les directives sur le beurre de cacahuète de la Commission européenne.
Je peux très bien constater tous les dysfonctionnements et toutes les insatisfactions que représente l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Sur en soi l'idée européenne, puisque ça a prévalu à un moment donné, je n'ai pas cette aversion de l'idée européenne. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une Union européenne qui, n'a même plus, je dis bien, ne fonctionne plus sur la base d'un projet. Elle n'a plus de projet. Elle est simplement l'expression d'une vassalisation à l'égard des États-Unis et qui disent mais allez entrez en sachant que ça permettra de que l'Europe n'existe, enfin que l'Union européenne n'existe plus, puisque bon, donc c'est plutôt ça qui m'interpelle et qui m'interroge et sur lesquels je me dis qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi, là, je n'ai pas de réponse comme, par exemple, vous, parce que, y compris parmi ceux qui disent donc il faut sortir, on en sort comment? Ça veut dire quoi? C'est l'idée même, c'est pour ça que je vous demandais, est-ce que la frontière est l'élément à rétablir en tant que tel? Je ne sais pas. Que vous parliez de protectionnisme, c'est autre chose.
C'est alors, vous allez me dire...
Oui, enfin, je veux dire, à un moment donné, je vous ai entendu, c'est frontière pour les hommes, pour les capitaux, pour les produits, pour tout.
Mais une frontière, c'est pas une porte fermée. C'est-à-dire qu'une frontière, c'est vous contrôler. Et vous dites oui ou non. Petit peu comme votre maison, vous avez une porte. Vous n'avez pas une porte qui est ouverte. Tout le monde rentre. Vous décidez qui rentre ou qui sort. C'est la même chose au niveau d'un pays.
François.
Oui, simplement, vous disiez que l'Union européenne n'a plus de projet. La France non plus. Elle n'a plus de projet. Je le dis. C'est pas juste une formule. C'est pour dire que ce qui peut-être nous réconcilier tous les trois sur la question de la stratégie vis-à-vis de l'Union européenne, c'est qu'en fait, de toute façon, toute stratégie, et je serais plutôt d'accord avec celle décrite par Charles-Henri, mais en amont, il faut de toute façon savoir où on veut emmener la France. Qu'est-ce qu'on veut réindustrialiser?
Je veux dire, et quel système économique on veut.
Oui, c'est ça. Mais en fait, il faut du coup... ce serait désobéir ou sortir, ou renégocier un traité, ou tout ce qu'on veut, mais parce qu'on sait ce qu'on veut faire, et qu'on est entravé, du coup, dans ce projet. Et du coup, la difficulté auquel on fait face, en fait, le préalable, c'est que nos élites, nos hauts fonctionnaires, se sont interdits de penser toute stratégie française en ne tenant pas compte des contraintes et des interdits européens. Et en fait, ce serait ça, le préalable. Ce serait de dire, mais quel est le meilleur projet pour la France, pour la réindustrialiser, pour qu'elle soit performante économiquement, et s'autoriser juste à penser le plan sans tenir compte des contraintes européennes, sans tenir compte du marché unique européen, des interdictions des aides d'État, etc. On construit, je veux dire, intellectuellement le projet, on sait où on va, quelle filière on veut réindustrialiser. Et après, du coup, une fois qu'on a fait ce travail-là, qui est le travail le plus technique, qui est le travail le plus difficile, je veux dire, c'est pour ça qu'ils sont payés 20-25 000 euros par mois en principe. C'est pas pour retranscrire les injonctions de l'Union européenne qu'on les paye pour ça. Ça, c'est un travail de scribe, c'est facile à faire. On les paye pour penser. Donc il faudrait qu'ils commencent par penser ce plan-là, ce plan de stratégie. Et ensuite, du coup, on pourra apprécier comment on fait, comment on se positionne vis-à-vis de l'Union européenne. Est-ce qu'on a beaucoup à avoir?
On est très, très loin.
Et on en est très loin.
Actuellement, on en est très loin.
J'étais en train d'imaginer Bruno Le Maire en scribe.
C'est ce qu'il est, globalement, avec un poste de VRP ensuite pour défendre dans les médias, le discours. Mais voilà, il est scribe VRP, en fait, Bruno Le Maire.
En tout cas, sur QG, nous continuerons à faire vivre ces débats interdits, ces débats qui passent sous les radars et qui sont absolument fondamentaux, comme celui sur l'Union européenne et beaucoup d'autres. Tu disais, François, dans un tweet très récent que, je résume, mais en gros, que fut un temps où la France éclairait le monde et que maintenant la France prend ses distances par rapport aux déclarations de l'ONU, par rapport aux déclarations d'Amnesty International, par rapport aux déclarations de toutes les ONG qui sont même presque suspectées d'être antisémites aujourd'hui sur la question palestinienne. Voilà, c'est dire à quel degré d'abaissement nous en sommes rendus.
Totalement. c'était pour dire le naufrage des élites, en fait, qui se sont réfugiés derrière des institutions tout à fait respectables, comme l'ONU, comme les ONG, etc., et qui, aujourd'hui, dans le cadre notamment de ce conflit israélo-palestinien, viennent nous expliquer que ces institutions ne sont plus crédibles. Bon, à mon avis, ça dit quelque chose vraiment d'un déplacement qui s'est opéré.
Voilà.
Et je veux dire, elle se...
De la même façon que le Conseil de l'Europe, pendant les Gilets jaunes, il y a 5 ans,
exactement,
n'était plus crédible, du gouvernement d'Emmanuel Macron. Merci à tous pour cette discussion très enrichissante. Merci et je vous dis à bientôt. Vous êtes tous avec vos différences des soutiens de QG. Je rappelle à tous ceux qui ont suivi cette discussion que QG est en campagne sur Ulule. Je vous invite à consulter le lien qui s'affiche sur votre écran ou dans le chat. Nous sommes passés ce soir à plus de 50% de notre objectif financier. C'est une très bonne nouvelle. Hein. En 8 jours, c'est une très belle performance. Il reste plus de 3 semaines de campagne. Il va falloir monter ensemble très haut pour étoffer notre offre, notre équipe, pour proposer des événements physiques à Paris, dans des théâtres ou en région. Je vous invite donc à nous découvrir dès ce soir sur QG Ulule et à nous soutenir. Voilà, nous ne sommes pas revenus à vous depuis 2019, depuis notre lancement pour une nouvelle levée de fonds. Nous le faisons parce que nous voulons monter en puissance et je vous invite donc à nous accompagner dans cette aventure. Je vous dis à très bientôt. Nous vous donnerons très vite plein de nouvelles sur ce que nous comptons proposer à l'antenne hein, dès que cette levée de fonds sera réussie ensemble. Et je vous dis bien sûr à très bientôt, à la semaine prochaine, je pense, pour un nouveau grand direct comme ce soir de la Maison de la Conversation. À bientôt. Merci à vous.